Bonjour mes amis, c'est vraiment un privilège d'être de nouveau ici au tabernacle ce matin. Naturellement, lorsqu'on voyage et qu'on visite plusieurs régions du monde et tout, il arrive qu'on se demande si on reviendra un jour. Et lorsqu'on voit les périls, les dangers et d'autres choses qui se profilent à l'horizon, mais comme Frère Neville vient de le dire, le Seigneur prendra soin de nous. Ça, nous apprenons à lui faire confiance pour... Et ce matin, c'est... Je crois que j'ai un amour plus profond pour le Seigneur Jésus que je n'en ai jamais eu de toute ma vie. Après avoir vu les différentes religions du monde, leur fonctionnement, leurs croyances, leur théologie, et ainsi de suite, j'ai fini par me rendre compte que nous, les chrétiens, nous avons le Dieu vivant et vrai. Toutes les autres religions semblent disparaître dans le néant une fois que le christianisme entre sur la scène. Bon, ma voix ne porte pas beaucoup. Si quelqu'un désire se rapprocher un peu, eh bien, sentez-vous vraiment à l'aise de vous avancer pendant que nous attendons. Je veux simplement faire un bref compte-rendu des réunions que nous avons eues outre-mer, pour que vous ayez une idée de ce que le Seigneur a fait outre-mer. Car vous faites partie du groupe qui m'a envoyé, et vous avez prié pour moi pendant que j'étais là-bas. Vous avez donc le droit de savoir ce que le Seigneur a fait. Nous avons eu des réunions glorieuses, merveilleuses. Au Portugal, à Lisbonne, au Portugal, nous avons eu l'une des meilleures réunions que j'ai eues depuis longtemps, sachant que nous nous sommes simplement arrêtés là en passant. C'est un pays purement catholique, à 100%. Le Portugal, qui vient de l'Espagne. Les Espagnols, qui étaient catholiques, s'y sont installés. Et tout le Portugal est catholique. Mais au beau milieu de tout ça, le Seigneur a répandu son esprit sur les assemblées. Et nous avons eu de merveilleuses réunions et des miracles. Des milliers et des milliers de... Eh bien, s'il y a des catholiques ici, je n'essaie pas de dire que des catholiques se sont convertis au christianisme, parce que le catholicisme représente le christianisme. Mais les gens qui vont habituellement à l'église catholique, qui ne sont pas vraiment de fervents chrétiens, nous en avons aussi chez les protestants, ils disent simplement, eh bien, je suis catholique parce que ma grand-mère était catholique. Et c'est tout, ils ne prennent pas cela au sérieux. Mais des gens comme ça ont été conduits au Seigneur Jésus-Christ par milliers lors des réunions en portugais. Et de là, nous sommes allés à Rome. Et j'ai visité les grandes catacombes où les chrétiens rendaient leur culte au début, au cours des premiers âges. Et là, nous avons eu une expérience vraiment merveilleuse après y être descendus, surtout dans les catacombes de Saint-Ange. Et bien sûr, nos guides étaient de purs catholiques. Mais ils essayaient de nous dire que ces gens-là étaient des catholiques. Mais toutes les inscriptions et tout disaient le contraire. Ils ne l'étaient pas, voyez-vous. Et de là, nous sommes allés à la cité du Vatican. Et à la cité du Vatican, j'ai passé des moments merveilleux. Et nous avons tenu un service de guérison tout juste à l'ombre de la cathédrale Saint-Pierre. C'était une glorieuse réunion. Et littéralement, tous ceux qu'on pouvait atteindre, puisque nous étions obligés de le faire en secret, on faisait simplement savoir aux gens où nous étions. Et des milliers de gens sont venus et ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et il a opéré des miracles, des signes et des prodiges parmi les gens dans la cité du Vatican. Pouvez-vous imaginer ça? Et j'ai rencontré beaucoup de grandes célébrités du pays cette fois-ci. Parce que le baron von Blomberg était avec nous. C'était lui l'organisateur des réunions. Il est bien connu de tous les monarques, les potentats et ainsi de suite du monde entier. À Lisbonne, nous avons rencontré le dirigeant du Parlement et nous avons pris un repas avec eux. Et à Rome, tous les dignitaires qui étaient là. Et ce roi Farouk, ou peu importe son nom, d'Égypte, qui venait d'épouser une jeune fille, vous savez, d'après ce que nous avons compris, et qui s'était de nouveau divorcé. Et il a le droit d'avoir 4 femmes. Et il n'en a peut-être qu'une ou deux maintenant. Mais il a épousé cette jeune fille, une écolière, et vous en avez vu l'annonce dans le journal, et tout. Quelqu'un d'agréable avec qui parler. Un homme corpulent, un grand, je veux dire, un homme corpulent. Il était corpulent. Là, c'était... C'était un homme sympathique. Puis nous avons rencontré quelques reines de l'Orient et ainsi de suite. En fait, ils étaient là, à Rome. Et quand ils ont appris que nous y étions, ils sont venus nous rencontrer. Une audience était prévue avec le pape et j'aurais pu aller lui parler. Mais quand j'ai appris qu'il fallait baiser son anneau et son orteil, j'ai dit non, non, ah non, non. Voyez, je suis prêt à donner à tout homme le respect qui lui est dû en tant que révérend, docteur ou peu importe ce qu'il est, lui faire honneur, ôter mon chapeau devant lui comme un gentleman et tout. Mais quand il est question d'adoration, il n'y en a qu'un seul, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je n'allais pas faire ça. Donc, il a dit qu'il avait demandé, au baron et tout, s'il pouvait faire en sorte que j'y aille un mardi après-midi ou quelque chose comme ça. Il a dit, « Bon, quand vous entrerez, a-t-il dit, la première chose que vous devrez faire, ce sera de vous prosterner devant lui. Puis, il va vous tondre son anneau et vous allez baiser cet anneau. Ensuite, il va vous présenter le pied avec son orteil, là. » J'ai dit, « Non, 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 monsieur, oubliez ça, nous ne ferons pas cela. » Ensuite, nous sommes allés au Caire, en Égypte, et à Athènes, en Grèce, où nous avons visité différentes régions du pays. Puis nous sommes allés à Bombay. Et je vous le dis, je ne crois pas que je pourrais me remettre de ce que j'ai vu à Bombay, de ce que c'était, même dans 10 ans. De toute ma vie, ce sont les spectacles les plus pitoyables que j'ai vus dans le monde entier. C'est presque l'Extrême-Orient. J'ai visité pratiquement tous les pays d'Europe et d'Asie. Et je suis allé dans cette partie-là du pays. Et même jusqu'à la frontière de la Russie. Mais je ne suis pas encore allé au Japon. Et c'est censé être la prochaine étape au programme. L'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon. Mon arrêt suivant, au départ de là où j'étais, c'était à Hong Kong, en Chine. Nous étions juste de l'autre côté. Et c'était beaucoup plus court pour nous de revenir aux États-Unis. À partir de là, les seules escales auraient été à Hong Kong, à Tokyo, à Formose, à Guam, à Wake, aux Philippines et enfin ici. Au lieu de ça, nous sommes repartis exactement dans l'autre direction pour revenir. Mais là, il n'y a pas de pauvre en Amérique. Peu m'importe où il vit et à quel point il a une vie difficile, il n'y a pas un seul pauvre en Amérique. Si vous le trouvez dans une ruelle, mangeant dans la poubelle, complètement dévêtu et tout le reste, il est un millionnaire. Ne pensez jamais qu'il est pauvre, parce qu'il ne l'est pas. Une fois que vous aurez visité l'Inde, vous verrez les pauvres. Eh bien, je vous le dis, un dur, j'ai le cœur dur. J'ai vu tant de choses et j'ai traversé tant de choses. Il se peut que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas l'effet que cela a sur un être humain quand on a vu tant de choses et qu'il faut s'élever au-dessus de tout ça, chaque fois, comme ça, pour pouvoir se sentir autrement. Au bout d'un moment, on entre dans ce genre d'atmosphère, au point qu'on regarde les choses sans que cela retienne notre attention, parce qu'on en est à ce point-là. Comme un médecin qui est dans l'obligation d'opérer un homme afin de lui retirer son appendice. La première fois qu'il l'a fait, il s'est peut-être évanoui, ou quelque chose comme ça. Mais au bout d'un certain temps, il en arrive là où il sait qu'il faut qu'il le fasse. Et le fait tout simplement. Et si le patient vit ou meurt, eh bien, il a fait de son mieux. Et un ministre finit par devenir comme ça, quand on est surtout un apôtre. Un apôtre, c'est un missionnaire. Le mot mission, apôtre, signifie un envoyé. Et pourquoi le missionnaire veut-il se faire appeler missionnaire au lieu d'apôtre? Ça, je ne sais pas. L'ordre biblique de cela, c'est l'apôtre. Ainsi donc, c'est un envoyé. Il n'a pas forcément besoin d'être un ministre. L'apôtre n'a pas besoin d'être un ministre. Il lui suffit d'être un envoyé. Dieu l'a envoyé pour faire certaines choses. Et alors, là-bas, je vous le dis, lorsque nous sommes allés en Inde, il fallait voir ces pauvres gens qui se mouraient de faim, étendus là dans les rues. Et il y avait là ces petites mamans avec leurs bébés qui mendiaient pour recevoir quelque chose. Elles-mêmes se mouraient de faim, mais elles ne voulaient pas laisser leur bébé mourir. Et elles ne demandaient que très peu, 25 cents, quelques sous, ou peu importe la somme. Si elles parvenaient à se procurer assez de nourriture, tous les 3 jours, elles survivraient. Ces gens-là n'ont pas de foyer où aller. Lorsqu'ils ont sommeil, ils s'étendent là, dans la rue. Et le vieux cochon marron n'est peut-être pas plus gros que ça, et ses flancs sont très maigres à cause de la famine. Il marche sur les gens. Le vieux bouc, qui est sur le point de s'écrouler, marche lui aussi sur les gens. Et il pue. Et oh, vous n'avez jamais vu pareil conglomérat que celui qu'on voit en Inde. Évidemment, Il en a pratiquement toujours été ainsi. Ce n'est pas nouveau. Ils ont obtenu leur indépendance tout récemment, il y a environ 6 ans, après la faillite de l'Angleterre, comme vous le savez. Et ce sont des gens très étranges. De tous les millions d'hommes que j'ai pu voir dans toute l'Inde, je n'en ai pas vu un seul qui ait des membres situés plus haut que les cuisses, ici en haut, qui soient aussi gros que ceci. C'étaient tous des gens très maigres, décharnés. Et à ma fenêtre, oh, ça briserait le cœur d'un homme, comme mon fils qui est assis là à m'écouter. Il s'était assis près de la fenêtre et il regardait ces gens assis dans la rue. Lorsqu'ils ont su où j'étais, et il y avait là des lépreux qui n'avaient pas de mains, de petites choses comme des moignons levés en l'air, pour mendier quelque chose à manger, ou quoi que ce soit d'autre. Ils n'avaient pas de pieds, et ils étaient tout blancs de lèpre. Et oh, c'est... l'un pouvait à peine aider l'autre. Et oh, c'est le spectacle le plus pitoyable que vous ayez jamais vu. Et j'ai dit aux missionnaires, j'ai dit, je ne peux tout simplement pas supporter ça. J'ai donné tout l'argent que j'avais là-bas dans les rues, absolument tout. Et je me disais, ils ont autant le droit de manger que ma Sarah et ma Rebecca. Et vous ne vous rendez pas du tout compte à quel point vous êtes bénis, les amis. Eh bien, c'est vrai, vous ne vous en rendez pas compte. Vous savez, vous devriez lever les yeux pour voir d'où ça vient. Oh là là, ça vient, et le peuple américain agit comme un cochon sous un pommier. Vous savez, tout au long de la journée, les pommes lui tombent sur la tête et les mangent sans lever les yeux pour voir d'où elles viennent. C'est comme ça que nous sommes. Nous ne nous arrêtons jamais pour y penser. Je veux dire, dans l'ensemble, je ne parle pas de vous ici, vous êtes des chrétiens, mais je parle des gens dans l'ensemble, comme ils font seulement. Ils ne se rendent pas compte combien ils sont bénis et combien ils vivent dans l'aisance. Les déchets de Jeffersonville pourraient nourrir, en cette journée, pourraient nourrir le quart de l'Inde. C'est vrai, et ils seraient heureux d'avoir cela. Peu importe ce que c'est, vous voyez un homme qui fouille dans une poubelle. Vous dites, eh bien, frère Branham, qu'en est-il de cet homme-là? Il est à peine vêtu, il est en haillon. Mais regardez, tout ce qu'il a à faire, c'est de demander l'aumône. Et on l'aidera. Cet autre gars là-bas ne reçoit aucune aumône. Celui-ci en particulier vit dans une cabane quelque part. Là, s'il pleut, il peut entrer dans un wagon. L'autre n'a nulle part où aller. Là où il tombe, c'est là qu'il reste, tout simplement. On les ramasse quand ils meurent, puis on les incinère. On les jette dans une grande fosse ou quelque part comme ça. On les enlève des rues et tout, des lépreux et tout le reste. Personne ne veut d'eux. Ils n'ont aucun endroit où aller. Rien. Ils ont faim. Ce sont des êtres humains comme nous. Et je vous le dis, frère, je ne pouvais pas supporter ça. J'ai failli faire une dépression nerveuse. Je suis maintenant à la maison depuis tous ces jours, depuis dimanche passé. Je n'arrivais pas à sortir de la pièce. Ma femme, qui est là, connaît la vérité pendant presque 5 jours. Ça m'a presque donné le coup de grâce. Même quand notre médecin a pris ma tension artérielle, il a dit, « Mon gars, tu ferais mieux de te reposer. » Il a dit, « Tes nerfs sont si fragiles que ta tension artérielle a beaucoup baissé. Et elle n'arrivera même pas à faire monter ton sang comme ça pour le ramener vers le haut. » Ça m'a presque brisé en deux de voir de telles choses. Et certains des missionnaires ont dit, « Frère Branham, si ceci vous fait de la peine à ce point, n'allez jamais dans l'arrière-pays, parce que c'est bien des fois pire que ceci. Bombay, c'est leur plus grande ville et leur plus belle ville, et vous devriez la voir. Et maintenant, quant aux religions, je n'ai jamais vu de telles, tant de superstitions, des gens complètement aveugles pour avoir regardé le soleil, adorant le soleil. Ils sont simplement devenus aveugles pour avoir regardé le soleil. J'ai été reçu là-bas par, les célébrités. C'est vrai, par Monsieur Nehru, le président, le parlement et tous les autres. J'ai leurs billets et tout, ici même dans ma poche. Leurs petites cartes de visite et tout ça. Ils étaient gentils. Ils n'auraient pas pu être plus gentils. Ils nous traitaient bien. Mais je suis allé voir le maire de Bombay, à son bureau. Votre poulailler a bien meilleure allure, vous voyez, que ce qu'ils ont de mieux. Et là, ils n'ont rien à manger. Et dans les rues, c'est le spectacle le plus pitoyable que vous ayez jamais vu. Si vous envoyez des colis, réconfort, envoyez-les en Inde. Oui, monsieur. Bon, je ne suis pas ici en tant que critique. J'ai dit à ma femme, en route pour venir ici, s'il y a quelque chose dont je veux me débarrasser et pour lequel je demande à cette église de prier pour moi, c'est d'arrêter de critiquer. Dans mon cœur, je critique. Et ce n'est pas mon intention d'être comme ça. Aussitôt que je suis arrivé en territoire américain, avant d'arriver ici, j'ai vu les Américains et je me suis mis à les critiquer sur le champ. Quand j'ai regardé et que j'ai vu cette petite maman qui était à l'arrière de l'avion. Nous avons voyagé en deuxième classe. Et c'est vraiment comme ça que les prédicateurs devraient voyager. Et à l'arrière de l'avion, il y avait une petite maman avec de petits enfants. Et voici cet homme assis là qui s'en prenait à ses enfants parce qu'ils, nous avions été, j'avais passé 58 heures en vol. Mais ils étaient là depuis environ 35 heures. Les pauvres petits étaient agités et se conduisaient n'importe comment. Et de voir ces femmes américaines se lever là avec des vêtements si indécents, même dans leur état immoral, leur état de famine, ces femmes-là peuvent venir ici et enseigner à ces femmes américaines comment mener une vie décente. C'est vrai, jamais on ne, dans la rue, peu importe si c'est votre femme, vous ne pouvez pas vous tenir à moins de 15 cm d'elle. On vous jettera en prison, vous voyez, c'est vrai. Pas question de se becoter, de se caresser et tout, dans les rues, là-bas. Et leurs femmes ne regardent jamais un homme dans les yeux lorsqu'elles lui parlent. Elles gardent la tête baissée, comme ceci, puis s'éloignent. Et on ne leur permet pas de se promener dans la rue comme ça, et ainsi de suite. Ça, c'est leur moralité. Après que j'ai vu ces gens souffrir de la faim, des païens, comme ça l'était, de voir ce côté vil et dégradé de notre nation, cela me rend critique. Et je me suis tenu là-bas, dans l'hôtel, au Taj Mahal. Je pense que Billy Paul, comment on prononce ça? L'hôtel Taj Mahal? Taj Mahal. Oui, en tout cas, j'étais là, à l'hôtel. Billy en est témoin. Deux Américains sont arrivés. Et quand ils sont allés dans la rue, nous les avons observés lorsqu'ils sont sortis. Ils sont passés au milieu de ces pauvres gens qui étaient là-bas, dans la rue. Un petit garçon a couru vers eux. Il y a une sorte de maladie qu'ils attrapent. Il avait environ 8 ans. Son orteil était à peu près gros comme ça. Deux orteils. Ils étaient levés à peu près comme ça. Et il devait tirer ses petits pieds comme ça. Il s'est approché d'eux et leur a demandé un sou, vous savez, ou quelque chose comme ça, pour se procurer quelque chose à manger. Et ces Américains ont fait... Ils se sont retournés comme ça et sont partis. J'ai dit, « Oh Dieu, sois miséricordieux. Hautain, nous étions là à parler avec Nehru et les autres. Et ils ont dit, « Nous aimerions bien apprendre vos manières de y avoir votre démocratie, et ainsi de suite. Mais nous ne voulons pas de votre esprit. » C'est vrai. Nous ne voulons pas le sentiment d'arrogance et de suffisance que vous avez tous en Amérique. Ça, nous n'en voulons pas. Voyez, ils n'ont pas hésité à nous le dire non plus. Il a dit, « Nous ne voulons pas de ça. » Et j'ai dit, « Ça, ce n'est pas une vraie représentation du christianisme. » J'ai dit, « Ça, c'est une forme d'hypocrisie. » Absolument. J'ai dit, « Les chrétiens n'agissent pas comme ça. » Non, monsieur. J'ai dit, « Ce n'est pas tout le monde en Amérique qui agit comme ça. » J'ai dit, « Nous avons aussi des gens qui sont humbles et doux, comme partout ailleurs dans le monde. Mais nous en avons qui... » J'ai dit, « Ça me désole de le dire. » Et je dis, « Mais la plupart d'entre eux, et même la majorité, sont tout aussi hautains, emportés, enflés d'orgueil que ceux-ci. Puis de revenir ici, ça me fait critiquer, voyez-vous, et je ne veux pas être comme ça. Et j'ai constaté, après tant de choses, avoir vu tant de choses, et tout, que frères et sœurs, mes vieux amis du tabernacle ici, soyez bénis. Vous ne vous rendez pas compte de ce que j'ai traversé, des jours que j'ai passés à essayer de vous nourrir et tout. Et j'essaye de faire de mon mieux, afin de répondre devant Dieu un jour. Mais alors, si vous me voyez faire quelque chose de travers, ne me condamnez pas. Ayez simplement pitié de moi et essayez de me corriger, vous voyez, parce que ce n'est pas mon intention d'être ainsi. Mais c'est juste qu'on doit traverser tant de choses, on ne s'en rend pas compte, et on doit passer par-dessus tant de choses. Je pourrais vous dire des choses ce matin qu'il ne me serait pas permis de vous dire ce matin. Vous comprendriez pourquoi j'ai passé 5 jours là-bas, à la maison, sans pouvoir me déplacer. C'est vrai, vous ne vous en rendez pas compte que ce qui s'est passé depuis qu'un petit prédicateur innocent a commencé à se tenir ici, à la chair, tout ce qui a câblé ce cœur et qui l'a transpercé, l'a frappé, l'a tiraillé, Dieu seul le sait. Je ne le dis même pas aux gens, pas même à ma propre femme. Je garde ça simplement entre Dieu et moi. Et j'avance du mieux que je peux. Mais on se rend compte qu'il y a des limites à ce que l'esprit humain peut supporter. Au-delà de cela, il craque. Vous voyez. Et ce qui m'a soutenu, je ne sais pas. C'est Dieu seul qui l'a fait tout ce temps. Bon, il y a toutes sortes de religions en Inde. Il y a une religion pour chaque chose. Chaque chose suit sa propre voie. J'ai été reçu par l'historique Jamais auparavant, les religions de l'Inde ne s'étaient réunies pour recevoir un chrétien. Mais il y a 2 semaines, jeudi dernier, j'étais reçu par les religions de l'Inde. Et beaucoup d'entre eux adorent les mouches. Ils adorent le bétail. Ils adorent, oh, tout. Et ils étaient là, les Jains. Et nous étions tous assis là, dans leur temple. Là, leur prêtre. Cette religion a été fondée avant même la naissance du christianisme, il y a 3 ou 4 000 ans. Ils ont un monastère, ils ont des moines. C'est très proche du catholicisme. Ils s'arrachent la barbe avec les mains, de même que les cheveux de leur tête, comme ça, avec les mains. Puis ils repoussent. Il leur est interdit de les couper. Et ils sont tellement dans tous les sens qu'ils prennent un balai et, ou un petit balai à franges. Ils s'assoient là. Ce sont les moines qui fabriquent ces petits balais à franges. Et ils vous précèdent, comme ça, pour s'assurer que vous ne marchiez pas sur une fourmi ou quelque chose, et que vous ne la tuiez. Si c'était le cas, ce serait un péché mortel, et cela ne vous serait pas pardonné. Ils portent un objet blanc sur la bouche et sur les oreilles, parce que si, en respirant, il leur arrivait d'inhaler un petit moucheron, cela ne leur serait jamais pardonné. Vous voyez, ils auraient tué quelque chose. Et, oh là là, comment pourraient-ils un jour accepter le sacrifice de sang du Seigneur Jésus-Christ? Ils ont entendu parler de lui, mais ils ne croient pas cela. Ils ont entendu parler de Jésus. Les missionnaires leur en parlent. Il a dit, « Oh oui, mais vous autres, vous êtes complètement embrouillés. » Il a dit, « Vous pensez à cet homme, Jésus. S'il était un homme saint, comment a-t-il laissé des hommes cruels le crucifier? C'est absurde. » Il a dit, « Il est monté sur un cheval et est monté au ciel. » C'est là qu'il est allé. Et les Sikhs, ils portent un turban. Et ici, à l'intérieur, ils ont un couteau. Et chaque fois qu'ils trouvent un chrétien qui est de dos, ils le tuent. Vous voyez? Parce que, quand il arrivera au ciel, le chrétien ira au ciel aussi. Mais quand il arrivera au ciel, il sera le chrétien. Il sera le serviteur de ce Jain. Vous voyez? Alors, il aura beaucoup de serviteurs. S'il peut en éliminer beaucoup ici sur terre. Vous voyez? Ainsi donc, s'il vous tue, vous êtes simplement tué, c'est tout. Et dans leur turban, on peut voir qu'il y a un petit peigne qui dépasse, là, et un couteau qui dépasse là, sur le côté. Et tout ce qu'ils veulent, c'est que vous ayez le dos tourné. C'est tout ce qu'ils veulent faire. Ainsi donc, toutes ces choses, les religions du monde. Et alors que je leur parlais ce soir-là, le premier soir de cette série de réunions, et il n'y avait aucun moyen d'estimer le nombre de personnes qui étaient là. Il n'y avait aucun moyen de recevoir tout le monde. C'était la mousson, ce qui est la saison des pluies. Et les gens étaient là, sans recours. Et, oh, des cas vraiment pathétiques. Et il s'est trouvé que le premier qui est monté là, ceux qu'il pouvait amener là, c'était un petit garçon, qui était un... Je crois qu'il était hindou, n'est-ce pas, Paul? Et il ne pouvait pas. C'était un petit enfant sourd-muet. Il était sourd-muet de naissance. Et j'ai dit, eh bien, voici le premier cas, ce petit garçon-ci. J'ai dit, maintenant, chacun de vous, l'un, les Jains, essaieront de faire des gens des mahométans, et les autres vont essayer d'en faire différentes choses. Et ils lisent tous leur Bible à eux, pas cette Bible-ci, mais ils ont leur Bible, le Coran, vous savez cela. Donc, ils ont, ça, c'est chez les mahométans, et ils ont différents fondateurs. Bon, il y en a là-bas qui croient que l'homme, c'est Dieu lui-même, que tout homme est un Dieu, et plus vous êtes bon, plus vous êtes un meilleur Dieu. Et oh, c'est horrible de voir leur manière de faire. Et là, j'ai dit, bon, messieurs, regardez. Je ne pouvais pas les appeler des frères. Je m'adressais à eux en les appelant les messieurs des religions du monde. Voyez, et j'ai dit, maintenant, je veux vous demander quelque chose. Là, nous sommes tous ici aujourd'hui, ou ce soir plutôt. Et il y a toutes ces différentes choses. Vous adorez le bétail et vous adorez tout. Et j'ai dit, tout ça, si vous me le permettez, c'est de la superstition. Ils comprenaient tous l'anglais. Ils ne pouvaient pas le parler. Mais l'Angleterre les a gouvernés pendant bien longtemps. J'ai dit, vous êtes ici, et nous sommes. Chacun de vous représente une religion ou une autre. J'ai dit, et vous êtes là à faire du prosélytisme. Vous prenez un Sikh pour en faire un Jain. Et vous prenez un Mahométan pour en faire un bouddhiste, et ainsi de suite comme ça. J'ai dit, ce n'est qu'un changement de pensée, c'est tout. J'ai dit, nous avons des choses semblables en Amérique. Nous ne sommes pas à l'abri de ces choses. Et je dis, mais nous croyons tous en un seul Dieu. J'ai dit, là, nous avons les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, et ils font du prosélytisme entre eux, pour amener les gens dans des organisations. Mais vous tous, vous faites du prosélytisme pour amener les gens d'un Dieu à un autre, vous voyez. Mais, et je dis, lequel est-ce donc? Chacun de ces dieux est une superstition. J'ai dit la créature même, la mouche que vous adorez, la vache que vous adorez, le cheval, ou peu importe ce que c'est le Dieu Tout-Puissant qui a créé cet être. Voyez ? Et j'ai dit, vous adorez la création au lieu du Créateur. Voyez ? L'être. J'ai dit, dans toutes ces choses-là, aucun d'eux, et des personnes ont des idoles et tout. J'ai dit, aucun d'eux ne peut vous aider. Aucun d'eux ne peut vous répondre. Ils sont tous muets, et aucun d'eux ne peut vous répondre. Aucun d'eux ne peut passer à l'action. Mais il n'y a qu'un seul Dieu vivant et vrai, et Jésus-Christ est son Fils. Et j'ai dit, or c'est lui que je suis ici pour représenter. J'ai dit, et bien de même qu'Élie, le prophète, a fait venir tous les prophètes de Baal, et ainsi de suite, sur la montagne du Carmel, pour prouver et affirmer qui est Dieu. Et je dis, il n'y a maintenant qu'une seule chose à faire. Et là, si vos dieux ont raison, alors j'abandonnerai le mien pour servir les vôtres. Maintenant, voici un garçon sourd-muet. Lequel de vos dieux peut le guérir? Lui donner son oui et l'usage de la parole. C'est ce que je veux savoir. Voyez, lequel peut rendre la parole à ce garçon? Et tout le monde était silencieux. J'ai dit, bon, le christianisme vous a été présenté sous forme de doctrine, de brochure et de Bible. Et je suis d'accord avec ça, à 100%. Que Dieu vienne en aide à ces missionnaires qui vont là-bas pour y vivre. Oui, monsieur, mais, et je dis, cela ne vous a pas été présenté en entier. Voyez, je dis, cela vous a été présenté en parole seulement. Mais le Dieu qui a écrit cette parole qui se trouve déjà dans votre cœur. On est maintenant au point où il va faire vivre la parole, voyez, se manifester dans la parole. Alors j'ai dit, voici ce jeune garçon, il est sourd-muet, il ne peut ni parler, ni entendre, ni rien. Il est né comme ça, et le Saint-Esprit était là, il révélait les péchés des gens et tout, et il s'évanouissait presque quand il voyait cela, vous savez. Et ils faisaient tous tellement de bruit qu'on n'arrivait pas à comprendre, parce qu'on avait fait venir la milice pour les surveiller, vous savez. Et les gens étaient massés de long large. Oh là là, on a dit qu'il y avait là des gens venus de partout en Inde. Donc, on ne pouvait pas dire ce qu'il y avait là, voyez-vous, ni combien, ni rien. On ne pouvait rien comprendre. Et donc, ce petit garçon, alors je l'ai fait monter là-haut. Et j'ai dit, maintenant, Père Céleste, tu sais que je suis comme ces autres hommes-ci. Je serai dans le même état qu'eux, et même pire, n'eût été ta grâce, tu vois. Tu m'as sauvé, et tout ceci, c'est toi qui l'as prévu. Ce n'est pas pour moi. Et maintenant, tu sais que je ne dis jamais que je peux faire la moindre chose. C'est toi, Seigneur. Mais ici même, pendant que les religions et les superstitions de ce monde, comme il en était du temps du prophète Élie, comme il en était du temps de ton fils Jésus, il en est de même maintenant. J'ai dit, afin que l'on sache, Seigneur Dieu, une fois encore, que tu es le seul Dieu vivant et vrai, celui qui a fait l'humanité et qui peut faire parler les muets ou faire entendre les sourds. J'ai dit, je te le demande au nom de ton Fils, selon sa parole. Il a dit de te demander toutes choses en tant que croyant chrétien, de demander toutes choses en son nom au Père, et cela nous serait donné. J'ai dit, là, je crois sa parole, et je demande à l'esprit de mutité et de surdité de quitter l'enfant comme ça. Et j'ai tapé dans mes mains comme ça. Il s'est retourné et a regardé autour de lui. Il tenait ses oreilles vers le haut, comme ça. Et voici qu'il pouvait parler ou entendre aussi bien que n'importe qui dans l'auditoire, comme ça. Eh bien, c'était parti. Au tour du suivant, on ne pouvait plus. Ils ont dû me faire sortir. Il n'y avait plus moyen. Et ils ont presque arraché mes souliers, arraché mes vêtements. L'armée n'arrivait pas à les contenir. La milice, les gardes, n'arrivaient pas à les contenir. Les gens couraient et fonçaient droit sur les gardes pour pénétrer leurs lignes. Comme ça, ils vous adoreraient, voyez-vous, s'ils le pouvaient. Ils ne comprennent pas. Peu importe combien vous essayez de leur faire comprendre, ils ne comprennent pas. Le suivant, c'était un homme. Le soir suivant, c'était un homme qui était aveugle. Oh, depuis environ 20 ou 30 ans, un adorateur du soleil. Il avait regardé le soleil au point d'avoir perdu la vue. Il était comme ça, à force de regarder droit vers le soleil, au point qu'il était complètement aveugle. Il n'avait pas vu depuis 20 ou 30 ans. Il s'est trouvé qu'il était le cas suivant. Il s'était frayé un chemin pour pouvoir monter sur l'estrade le lendemain soir. J'ai dit, eh bien, lequel était-ce hier soir? Après que j'ai terminé, on avait de la peine à entendre, voyez-vous. Il y avait des gens là partout, de toutes les religions et tout. J'ai dit, combien d'entre vous veulent maintenant accepter le Seigneur Jésus-Christ? Vous voyez, et tous ceux que je pouvais voir ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, partout. Et évidemment, on ne pouvait pas, jusqu'où je pouvais voir, puisque je n'arrivais pas à voir grand-chose. On ne pouvait pas le faire en plein air. Il pleuvait à verse et tout ça. Il y avait là des gens qu'il était impossible d'atteindre. Et oh, c'était le spectacle le plus pitoyable qu'on ait jamais vu. Et il y en avait qui étaient encore au chemin pour y venir et tout. Ils traînaient avec une chèvre, vous savez, ou quelque chose d'autre comme ça, dans leurs efforts pour se rendre aux réunions. Alors, le soir où cet homme aveugle est venu, j'ai dit, « Maintenant, lequel de vos dieux peut lui rendre la vue ?» J'ai dit, « Voici l'un de vos propres adorateurs, qui par superstition est devenu aveugle, pour avoir regardé le soleil. » J'ai dit, « Il adore le soleil, parce qu'il sait que c'est un être créé, qui est créé, qui a été créé, une créature qui a été créée, quelque chose. » Mais j'ai dit, « Le créateur même qui a créé le soleil, a créé les yeux de cet homme, voyez, le même créateur. » Et j'ai dit, « Maintenant, s'il le fait, si Dieu lui rend la vue, avant que je vous demande quoi que ce soit d'autre, combien d'entre vous accepteront que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, celui qui a été crucifié ? » Il n'arrivait pas à comprendre que cet homme saint et pur, étant ce que nous disons, ce que le chrétien dit, aurait pu mourir. J'ai dit, la raison pour laquelle il fallait qu'il meure, c'était afin d'ôter nos péchés. J'ai dit, il n'était pas une troisième personne, ni une deuxième personne. Il était la même personne qui avait été faite chair afin d'ôter notre péché. J'ai dit, il fallait qu'il vienne faire. Et je leur ai raconté la petite histoire que j'avais prêchée ici, la veille de mon départ, au sujet de l'abeille, vous savez, qui, après avoir piqué, laisse là son aiguillon, vous savez, et elle ne peut plus piquer. Et il fallait que ce soit dans la chair humaine que l'abeille de la mort plante son aiguillon, parce que la mort n'est pas dans l'âme. La mort est dans l'esprit, dans la chair. Il fallait que Dieu se fasse chair, afin d'ôter l'aiguillon de la mort. Et donc, quand ils pouvaient arriver à voir cela, vous savez, parce qu'il y a beaucoup d'insectes en Inde, et ils étaient... J'ai dit, maintenant, regardez, Dieu est capable, le Créateur même. Cet homme regardait le soleil en raison de sa superstition. Il était en quête de miséricorde pour son âme, car il sait qu'il devra aller quelque part après sa mort, quand il partira d'ici. J'ai dit, à cause de cela, ses yeux se sont aveuglés, et c'est par ignorance qu'il l'a fait. Mais le Créateur même, qui a créé le soleil qu'il regardait, peut rendre la vue à ses yeux. J'ai dit, « Monsieur, seriez-vous prêt à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur et à abandonner toutes les idoles et tout le reste et à le servir aussi longtemps que vous vivrez ? Si oui, levez la main. » Et le pauvre vieil homme a levé ses mains tremblantes. Tous, là-bas, portent juste un pagne autour d'eux, vous savez. Et il a levé les mains pour dire qu'il le ferait. Et il ne s'assoit jamais quand ils sont à l'église. Jamais. Ils n'ont jamais de chaise, ni rien. Ils s'allongent simplement, ou s'assoient, ou se laissent tomber par terre, ou s'empilent les uns sur les autres, ou font ce qu'ils peuvent. Vous pouvez imaginer à quoi ça ressemblait. Les gens étaient là, comme ça, vous savez, à perte de vue. Alors j'ai prié le Seigneur qui est bon de lui rendre la vue. Et là, par la grâce de Dieu, cet homme qui était totalement aveugle, les larmes ont commencé à couler sur son vieux visage ridé et sur sa barbe, vous savez, sur sa barbe blanche. Ça coulait comme ça, et il s'est mis à crier quelque chose dans sa propre langue. Et tout le monde s'est mis à crier, et voilà qu'il s'est mis à marcher partout là-bas, en tapotant tout le monde, comme ça. Il pouvait voir un homme qui avait été aveugle. Alors, frère Cox et les autres, je pense qu'il est assis au fond. Il peut vous montrer des lettres que nous avons reçues de l'Inde, qui confirment ces choses. Et ça nous prendrait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais vu la manière dont nous avions planifié les choses, je ne pouvais pas rester. Je ne comprends pas comment j'ai pu y passer 5 soirs, sans mon fils Billy Paul, qui est au fond, et sans l'aide de Dieu. Je ne sais pas comment j'y serais arrivé. Billy est resté à mes côtés, et il m'a aidé à passer à travers tout ça. Il a essayé de m'aider à passer à travers tout ça. Et ces gens, vous savez, ce sont des gens très timides. Ils ne veulent faire du tort à rien, ni personne. Et vous êtes obligé de passer par un autre côté, vous voyez. Sinon, vous risqueriez de vous faire écraser par la foule. Et on ne le saurait pas, vous savez. Les gens vous piétineraient et vous en mourriez. Voyez-vous, il faut se frayer un passage là-dedans. Alors, eh bien, je suis de retour à la maison, par la grâce de Dieu. Je pourrais en raconter davantage, mais c'est l'heure de l'école du dimanche. Je ne veux pas prendre le temps de la prédication de la parole pour parler des choses missionnaires. Si vous avez des colis réconfort, et que vous voulez mon conseil, envoyez cela en Inde. Je n'ai rien contre l'Allemagne, ce sont de braves gens, rien contre les autres. Mais frères, sœurs, nous leur envoyons des choses là-bas, rien que pour les renforcer, et plus tard, avoir une autre guerre contre eux. Vous voyez, c'est vrai, envoyons cela là où c'est vraiment nécessaire. Vous voyez, si vous avez quelque chose à envoyer, envoyez cela en Inde. Ce sont eux qui sont dans le besoin, et ils sont pauvres, illettrés. Ils ont des ressources naturelles, mais ils n'ont pas le savoir-faire qu'il faut pour les exploiter. Tout ce qu'ils savent faire, c'est mendier, et c'est ce qu'ils font. Et ils voulaient m'emmener faire une. Vous savez combien j'aime la chasse. Ils voulaient m'emmener une grande partie de chasse au tigre de Bengal, là-bas à leurs frais. J'ai dit, rendez-moi service. Prenez l'argent que vous auriez dépensé pour cela et nourrissez ces pauvres gens qui sont là-bas. Je peux très bien rentrer chez moi sans l'avoir fait, voyez-vous. C'est vrai, parce que je peux aller faire une partie de chasse ailleurs, vous voyez. Si jamais vous avez de vieux vêtements ou quoi que ce soit que vous voulez envoyer, envoyez cela en Inde, voyez. Maintenant, j'ai parcouru le monde entier, ou presque. Je sais de quoi je parle. Et en tant que frère chrétien, l'Inde est dans le besoin. Maintenant, je suis rentré à la maison. J'ai accompli tout ce que le Seigneur m'a dit de faire. Autant que je sache, j'ai fait de mon mieux. La semaine prochaine, je vais vous raconter une petite chose qui est arrivée. Je partageais un repas avec le gouverneur. Et là-bas, ils avaient prévu de m'offrir à manger du riz cuit avec des pâtes de mouton et assaisonné d'huile d'olive. Vous pouvez vous imaginer, c'était vraiment sans saveur. Ça m'a rendu tellement malade. J'avais du mal à supporter cela. J'étais presque sur le point de vomir. Le gouverneur m'a regardé et a dit, « Monsieur, je crois que vous êtes malade. » Et j'ai dit, « Oh, et je dis, je pense que la nourriture est un peu différente. » Quand nous sommes arrivés à l'hôtel, le médecin personnel du gouverneur était là, à m'attendre. Il a dit, « Je veux vous examiner. » Il a dit, « Je suis le médecin personnel du gouverneur. » J'ai dit, « Oh, je vais bien. » Et donc, il a commencé, bien sûr, en bon gentleman, il m'a examiné de fond en comble. Et il a dit, « Je pense que vous allez bien. » Tout se passait bien jusqu'à ce qu'il prenne ma tension artérielle. Il m'a de nouveau regardé et a dit, « N'êtes-vous pas extrêmement fatigué ?» J'ai dit, « Oui, monsieur. » Je me suis mis à lui parler des effets des réunions, les visions, vous savez, lorsque je me mets à les avoir. Il a dit, « Je ne sais pas comment vous êtes encore en vie. » Il a dit, « Je ne veux pas vous faire peur, mais, a-t-il dit, votre tension artérielle est au plus bas. » Il a dit, « Vos nerfs sont si faibles qu'ils n'arrivent pas à pomper votre sang vers le haut. » Voyez, il a dit, « Votre tension artérielle est dangereusement basse. » Il a dit, « Combien de temps comptez-vous rester ici ?» J'ai dit, « Oh, j'ai encore deux réunions. » Il a dit, « Eh bien, je vous conseille de retourner en Amérique le plus tôt possible et qu'un très bon médecin vous examine, a-t-il dit, parce que je vous conseillerais de ne pas avoir de réunion pendant certains temps. » Voyez, je lui ai dit comment ça se passait. Bien sûr, il appelait ça des dimensions, vous savez, passer d'une dimension à une autre. J'ai dit, « Eh bien, monsieur, quand je serai de retour chez moi, et je dis, j'ai promis aux Américains, avec qui j'avais eu des réunions, qu'on ferait les choses différemment à l'avenir. » J'ai dit, « je vais simplement prier pour les gens, voyez, et parce que je vois que ça ne produit pas l'effet escompté. Je regarde mon frère, Oral Roberts, et certains de ces hommes-là qui ont des réunions, et qui amènent même plus de gens au salut ici en Amérique que moi. C'est simplement quelque chose que je crois avoir mal utilisé. Un grand don divin, un don prophétique que j'ai utilisé pour la guérison divine. Et je ne pense pas que ça ait encouragé Dieu ou que j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu en faisant cela, parce que cela n'a pas produit l'effet escompté. Il ne m'a jamais parlé de cela, les amis, vous savez. Il a dit que cela s'était fait auparavant. Il a même présenté Moïse de la même manière. Moïse est allé en Égypte et a accompli ses miracles une seule fois. Cela a été réglé. Il a pris sa main, puis il l'a guéri de la lèpre. Il a changé un bâton en serpent, puis c'est redevenu un bâton. Et cela a réglé la question pour toujours. Et je pense qu'après avoir passé 10 ans à parcourir l'Amérique d'un bout à l'autre et à visiter toutes les villes, les gens comprennent bien que c'est la vérité. Vous voyez, cette fois, c'est pour prier pour les gens. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire. J'ai été très gentil. Vous savez que je vous aime, et je vous aime d'un amour sans fin, et ça, Dieu le sait. J'ai dû m'isoler. Il y a des gens d'un bout à l'autre de cette Amérique à qui j'aimerais serrer la main, et j'ai désiré ardemment le faire lors des réunions. Je n'ai pas pu, vous voyez. Vous ne savez pas quel effet ces visions ont sur quelqu'un. Dès qu'on se tient devant la personne, ça vient tout de suite. Vous voyez, parfois, je ne le dis pas aux gens, mais c'est là, devant la personne. J'ai découvert sur des gens des choses que j'aurais préféré ne pas savoir. Des gens qui sont censés être mes amis. Et pourtant, on sait que ces choses n'étaient pas justes. Si Dieu descendait maintenant et m'en donnait la permission, je pourrais vous dire des choses qui vous surprendraient. Et là, j'ai demandé au Saint-Esprit s'il le veut bien. Et il m'a dit, je lui ai demandé s'il me permettait premièrement de me ramener à l'état où j'étais quand j'ai quitté le tabernacle. Que je revienne à cet état-là et que je me tranquillise, à tel point que lorsque je me tiendrai devant les gens, les visions ne viendront pas. Que je puisse parler au frère sans voir sa condition et simplement prier pour lui à ce moment-là. Voyez, et être comme, c'est ce que j'ai demandé à Dieu de faire. Je suis rentré à la maison et je sais que cette semaine, personne n'est venu à la maison. C'est une bonne chose. J'ai passé près de 5 jours là-bas et je n'arrivais même pas à bouger. J'en étais au point où je me levais et j'avais l'impression d'avoir des douleurs dans les os et tout. Évidemment, c'est ce changement, un décalage horaire d'exactement 11h30 entre Bombay et ici. En ce moment, c'est presque l'heure où je... Oh, ça ferait déjà 1 heure ou 2 que je serais endormi, vous voyez. Donc, c'est la nuit, c'est simplement l'inverse. En plus, cette faible tension artérielle qui avait drastiquement baissé, comme ça, et j'avais de la peine à me lever et à me déplacer. C'est tout. C'est moi qui ai causé cela, en essayant d'en faire trop. Donc, je suis maintenant de retour à la maison, par la grâce de Dieu. Et maintenant, la semaine prochaine, je partirai tout seul pendant un moment, 2 ou 3 semaines, pour être seul, et avant tout pour prier. J'irai à la chasse, si le Seigneur le veut. Mais avant de le faire, c'est que je partirai quelques jours avant l'ouverture de la saison et tout. Je vais dans le Colorado. Je veux y rester au moins 2 ou 3 semaines, ou peut-être plus. Pour être seul, vraiment tout seul, et dire, « Oh Dieu, me voici ». Il se peut que je vienne demander à M. Michler de m'offrir de nouveau un emploi. M. Michler, pour retourner à l'entreprise de service public. J'ai accompli ce qu'il m'a dit de faire et je me tiens au tabernacle ce matin exactement comme je l'ai quitté il y a 10 ans. Je n'ai pas d'organisateur. Mon organisateur a démissionné quand ça chauffait. Je n'ai pas d'organisateur. Mon fils est sur le point de partir et mon fils, qui est assis au fond, s'en va dans l'armée. Il était mon copain. Il est resté à mes côtés. Certains me faisaient constamment des histoires. Pourquoi traînes-tu Billy avec toi? Si seulement vous saviez combien j'ai porté ce garçon dans mes bras, alors qu'il n'était qu'un enfant à la mamelle, son mère. Je mettais son biberon sous ma tête la nuit, comme il n'y avait pas de feu dans la maison, pour pouvoir réchauffer son biberon, et je le nourrissais. Il a toujours été mon copain. Nous mourrons ainsi, si Dieu le veut. Il va probablement rejoindre l'armée d'ici peu. Il a reçu les formulaires à ce sujet hier, et il va devoir prendre sa décision. S'il veut se porter volontaire ou s'enrôler, eh bien, il ne sera plus à mes côtés. Et là, je suis tout seul, mais pas tout seul, vous voyez. Il y a quelqu'un qui m'a fait sortir du sein de ma mère. Il m'a nourri, il m'a fait traverser ces grandes épreuves. Sa grâce m'a mené en sûreté jusqu'à présent. J'ai confiance qu'elle me mènera jusqu'au bout. Et j'en suis au point où je veux demander encore une chose à l'Église. Avant que nous prenions un passage à étudier dans les Écritures, c'est que vous priez pour moi. Un esprit critique s'est développé en moi et ça me hante. J'en ai parlé à ma femme hier, pour la première fois. Il s'est passé quelque chose. J'étais assis là, dans la cour, et je le lui ai dit. Elle me l'avait rappelé, et je lui en ai parlé. J'ai dit, chérie, j'en suis au point où je me mets à critiquer les gens. Je ne veux pas être. Ça, c'est le travail de qui? Ce n'est pas le mien. Dieu est celui qui doit critiquer, pas moi. Une certaine femme est allée là-bas, Madame Dowd. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'elle ou pas. Oh, c'était une telle honte en Inde. C'est pour cette raison que nous ne pouvions même pas tenir nos réunions plein air. Elle est allée là-bas et a essayé de recueillir des offrandes de ces gens. Et parce qu'ils refusaient de lui donner leur petite roupie. Une pauvre petite femme dont le travail consiste à transporter du mortier sur sa tête, au haut des marches et ce genre de choses, de 5h à 10h. Elle gagne 1 roupie par jour, soit 21 cents. Vous voyez, elle doit travailler dur pour conserver cet emploi. Des femmes qui pataugent dans la boue jusqu'aux genoux et tout. Les pauvres, pour s'occuper de leur petit bébé et ainsi de suite. 1 roupie, 21 cents. Et elle était là à harceler ces gens, à prendre ses roupies et à les changer en monnaie américaine. Et ces gens-là disaient, vous venez ici pour prendre ce que nous avons, pas pour nous aider. Vous voyez, vous autres, ils n'ont pas eu besoin de me donner le moindre sou pour que j'aille là-bas ou que je revienne ici, pour payer mes dépenses, payer toutes les locations de salles, toutes les notes d'hôtel et tout. Et en plus, tout ce qui me restait, j'ai distribué cela dans la rue. Je ne l'ai pas donné à une association. J'ai pris cela et je l'ai donné à ces pauvres gens qui se mouraient de faim. C'est là que votre argent est allé. C'est là que votre argent est allé. Exactement. Je l'ai fait de mon mieux. Je pouvais le faire moi-même. J'aurais seulement voulu en avoir plus pour en donner. Bon, mais là, mon frère, ma sœur, cette femme s'est mise à recueillir des offrandes et à les harceler. Ils ont dit, vous êtes venus pour prendre ce que nous avons, pas pour nous aider. Je pensais que vous veniez nous aider. Elle était censée être une guérisseuse divine. Elle était fâchée contre moi quand j'étais là sur la côte ouest. Howard, avait-elle dit, je veux voir ton papa. Elle avait épousé un homme de tout là-bas, en Égypte, ou quelque chose comme ça. Elle avait dit, je m'en vais en Inde, moi aussi. Il a dit, eh bien madame, quand cette onction-là est sur lui, nous, les gens ne viennent pas pour le rencontrer. Elle a dit, dites-lui que je suis madame Dowd. Elle a dit, comme j'irai en Inde avant lui, j'aurai la situation bien en main avant qu'il n'arrive. Elle a dit, de toute façon, j'ai de plus grandes réunions qu'il n'a jamais eues. Eh bien, c'est vrai, c'est possible, voyez, je ne sais pas. Mais de penser qu'elle avait cela bien en main, si bien qu'on ne pouvait même pas tenir une réunion en plein air. Voilà ce qu'il en était. Et les gens ont déclenché une émeute. Et elle s'est tenue là et a dit, vous, diable noir que vous êtes. Elle a continué comme ça. Et ils ont essayé de la convaincre de s'en aller, mais elle a refusé. Et quelqu'un l'a frappée sur la tête avec une brique. Et il a fallu la porter pour la faire sortir. Et là, on l'a fait partir d'urgence du pays. Elle est allée dans un autre pays, là-bas. Et le baron von Blumberg a dû aller voir le roi et tout, pour la sortir de là et éviter un massacre. Et donc, alors il... Voilà, c'était ça. Et j'ai regardé ça. Et j'ai critiqué cela. Quand je suis revenu, la première chose qu'on m'a remise, c'était la voie de la guérison. Et j'ai vu ces réunions de A.A. Allen. Et j'ai vu combien c'était contraire aux Écritures. Et j'ai critiqué cela, voyez-vous. Oh là là, je pense. Mais regardez ces pauvres gens, des gens charmants, qui suivent ça, vous voyez, et qui l'accompagnent dans cela. Des gens au cœur honnête. Je regarde autour de moi et je vois ces autres choses qui se passent. Et je me mets à critiquer dans mon cœur, vous voyez. Et je ne veux pas devenir comme ça. Si je le fais, je ne trouverai plus grâce devant Dieu. Voyez, et la seule chose, et je regarde les Américains et je vois leur manière de faire. Je regarde les femmes, comment elles s'habillent. Et je regarde les hommes, comment ils agissent et comment ils boivent, jurent, fument, chic et prétendent être des chrétiens. Au point que cela me donne la nausée. Quand je vois ce qu'il en est de l'autre côté, et que je vois ceci, alors je regarde les deux et je me dis, « Oh Dieu, mais écoutez ceci, à qui appartient la bataille ?» Dieu a dit, « Laissez livrer le blé croître ensemble. Les anges viendront les séparer à la fin du temps. Ce n'est pas à moi de le faire. Donc aidez-moi, alors que je me tiens ici à la chair, la main levée, aidez-moi à ne critiquer personne. Et aidez-moi afin que Dieu me donne dans mon cœur un esprit qui fera en sorte qu'au lieu de les critiquer, je les aimerai malgré tout et j'avancerai. Cela me tracasse continuellement, encore et encore. Or, je ne suis qu'un humain. Mes facultés mentales sont mises à rude épreuve comme ça, voyez-vous. Il faut que je me retire quelque part pour me reposer. Et c'est pour ça que je pars, pour être seul, pour prier Dieu d'ôter de moi cette tendance à critiquer et de m'adoucir. Eh bien, je pourrais très bien faire semblant de l'être, mais ça ne viendrait pas de mon cœur. Et là, je serais certainement un hypocrite. Vous voyez, je veux que cela vienne de mon cœur, que j'ai vraiment de l'amour pour ceux qui ne sont pas agréables. C'est ce que Jésus a fait. Que j'étais critique, que j'avais besoin qu'on me critique, encore là, il m'a quand même aimé, malgré tout. C'est donc ainsi que je veux être. Priez pour moi. J'espère vous revoir vers le mois de novembre. Je reviendrai peut-être pour tenir des réunions de réveil ici, au tabernacle, avant que nous... Alors là, voici une chose que j'ai faite. J'ai demandé ceci. Encore une chose. Je ne veux pas m'occuper des malades, sinon par le moyen des mouchoirs ou ce genre de choses. J'essaie de m'éloigner des visions, voyez-vous, surtout en ce moment où je me sens si faible. Dès que je vais me tenir devant les gens, eh bien, vous déclenchez cela. Les visions reviennent. Je veux m'éloigner et me tranquilliser à tel point que je pourrais m'avancer là et avoir des réunions différentes. Vous prierez pour moi, n'est-ce pas? Et aussi, je prie par la poste. J'envoie des mouchoirs et tout aux malades et aux affligés. affligé. Mais quand les gens m'appellent pour la prière, je les renvoie à Fresneville ou à d'autres frères pour qu'ils aillent prier pour eux. Parce que quand je me tiens devant la personne, ça me fait replonger là-dedans, vous voyez. Et je veux m'éloigner de cela pour pouvoir m'exprimer, dire, « Eh bien, Seigneur, seulement selon ta volonté, que tu voudras que je sache quelque chose, fais-le-moi savoir. » Et je garderai le secret pour moi, à moins que tu me dises de le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Puis j'irai prier pour les malades, et je changerai complètement mon ministère. Je pourrai avoir des réunions plus longues, de meilleures réunions, et tout, par rapport à ce que je faisais avant. Que le Seigneur vous bénisse maintenant, alors que nous courbons la tête. Père Céleste, nous te remercions ce matin, pour ce moment que nous avons passé à parler de ces missions, et combien tu nous as bénis et aidés. Que de fois me suis-je demandé, lorsque les vagues se soulevaient, que j'étais aux prises avec de grandes épreuves, si j'allais un jour revenir à la maison. Mais bon, me voici de nouveau, Seigneur. Tu me ramènes toujours. Je te remercie pour cette église, pour son pasteur, pour ses fidèles. Bénis-nous. Et maintenant, Père, ce matin, mon cœur regarde là-bas, du côté de l'Inde, et je pense à ceux qui sont allongés là-bas, dans la rue ce matin, tout le long du rivage, dans ces petits abris là-bas, ces gens pauvres, affamés, souffrant de la faim, sans instruction, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus et qui adorent une sorte de superstition ou une idole. Alors Père, combien je suis reconnaissant de savoir que tu m'as permis de te connaître. Te connaître, c'est la vie. Maintenant, je te prie de m'aider. Ôte cet esprit critique de ton serviteur. Seigneur, ô Dieu, je ne veux pas. Si ces hommes sont dans l'erreur, sois-en le juge, Seigneur. Donne-moi de les aimer malgré tout. Le veux-tu, Père? Si les femmes s'habillent mal, se conduisent mal, deviennent des prostituées, et que notre nation sombre, comment puis-je changer l'histoire alors que tu l'as déclaré, Seigneur? Mais je te prie de m'aider, de faire que je sois plein d'amour et bienveillant, afin que je puisse être ton serviteur et faire ta volonté. Père, je te demande toutes ces choses pour ta gloire. Maintenant, bénis-nous. Et comme il m'a été demandé d'enseigner un peu la parole, Père, donne-nous un court message maintenant, afin que la parole soit proclamée et que ce soit un jour glorieux pour nous. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Très bien. Maintenant, il est 11h moins le quart. Pas vrai? Eh bien, pourrons-nous prendre environ 35 minutes? Cela vous convient-il? Et nous sortirons vers 11h30. Maintenant, où allons-nous? J'étais assis là, et je pensais enseigner à partir de l'Ancien Testament. Mais, on utilise tout le temps l'Ancien Testament. Alors quelqu'un a dit, « Frère Branham, ne connaissez-vous rien d'autre que l'Ancien Testament? » Eh bien, c'est bon. Quand j'aurai appris cela, alors j'apprendrai le nouveau. Mais quand on apprend l'un, on apprend les deux. Vous voyez, tous les deux sont ensemble. Mais prenons quelque part dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas ce que vous avez étudié, ni rien. Allons, je vous le dis, écoutons Jean. Revenons au chapitre 1 de l'Évangile de Jean et commençons à lire l'Évangile de Jean. Bon, je suis simplement en train de prendre cela. Je ne sais pas. Alors, nous allons simplement commencer notre étude dans l'Évangile de Jean. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est d'accord? Très bien. Jean, chapitre 1. Et maintenant, peut-être que mercredi soir prochain, j'ai entendu, je veux être avec vous ce soir. Je veux venir être avec vous ce soir et aussi mercredi soir. Je pense que nous ne partirons pas avant mercredi. Donc je serai ici mercredi soir. Je suis pas mal sûr que ce ne sera pas avant jeudi ou vendredi prochain, l'un des deux que nous partirons. Ainsi donc, je serai ici mercredi soir si le Seigneur le veut, pour le service. Et là, nous voulons enseigner quelque chose, peut-être mercredi soir, si le Seigneur le veut. Dites donc, frère Freeman, c'est vraiment une bonne idée. Enlevez votre veston maintenant et sentez-vous à l'aise. Est-ce que quelqu'un a quelque chose contre quelqu'un? Si oui, levez la main et allez voir cette personne. Eh bien, transformons ceci en un beau grand festin rempli d'amour ce matin. Qu'en pensez-vous? Tout le monde, peu importe ce qui vous tracasse, si la personne n'est pas ici, disons, Seigneur Jésus, mettons cela sous le sang maintenant même. Et, à partir d'aujourd'hui, je n'y penserai plus. Allons de l'avant et prenons un nouveau départ maintenant. Oh, si seulement vous saviez à quel point vous devriez être heureux. Dans toutes les religions du monde, on le voit, chacune d'elles est totalement dénuée de fondement. Il n'y en a qu'une seule qui soit réelle, c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Qu'importe si c'est proclamé par l'Église méthodiste, l'Église baptiste, l'Église presbytérienne, le Seigneur Jésus-Christ est la vérité. Amen. Voyez, Peu importe qui le proclame, le christianisme surpasse tout. C'est la seule chose qui est un fondement, la seule. Les autres choses, le sacrifice sanglant du Seigneur Jésus-Christ est le seul espoir du monde. Eh bien, j'ai vu leur religion, j'ai vu leurs idoles, j'ai vu leurs superstitions, j'ai vu leurs dieux et tout, et chaque. Je les ai étudiés. J'ai étudié le Coran en étudiant tout ce que j'ai pu avoir à ma portée. Et j'ai vu combien toutes, autant qu'elles sont, elles sont devenues des superstitions. Et ça vous fait vraiment vous rendre compte, oh, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le seul espoir du monde. Il est le seul qui soit jamais ressuscité des morts. Et nous pouvons prouver qu'il est ressuscité des morts et qu'il est vivant aujourd'hui. Amen. Oh là là, frère Neville, vous ne savez pas à quel point je suis heureux d'être un chrétien. Oh, vous devriez être si heureux. Maintenant, ce glorieux évangile de Jean, ici, selon Jean. Jean était le bien-aimé. Nous croyons que le Jean dont il est question ici, c'était le bien-aimé qui s'était appuyé sur la poitrine de Jésus et tout. Parmi les apôtres, il est celui qui a atteint l'âge le plus avancé ou qui a vécu plus longtemps que tous les autres. Et Pierre a été crucifié la tête en bas, les pieds vers le haut. André a été crucifié, les mains de chaque côté, comme ceci, et cloué. Là-bas, j'ai vu l'endroit où on a décapité Paul, là, à Rome. Dites, j'ai des... Oh, je tâcherai d'apporter ça la prochaine fois que je viendrai. Les images de tous ces martyrs et tout, où les gens étaient donnés en pâture aux lions, et ainsi de suite. J'ai tout un gros dossier là-dessus. J'apporterai cela, et j'en mettrai une sur un poteau, et une autre sur l'autre poteau, et ainsi de suite, pour que vous puissiez les voir et les regarder. Tout est en anglais. Remarquez, oh, quel spectacle qui brise le cœur. Là où Paul a été décapité, et on l'a jeté dans les égouts et abandonné. Et quand on y pense, oh là là, à peine la hache avait touché sa tête, qu'il était déjà dans la gloire. Amen. Ce n'est pas étonnant, il se tenait là, dans cette cellule, lorsqu'il a écrit, « Oh mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire, par notre Seigneur Jésus-Christ. » Il a écrit, a dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. » Oh, eh bien, ça fait réfléchir. La vie des grands hommes rappelle à chacun que nous pouvons rendre nos vies sublimes. Mais une fois partis, laissez derrière nous des empreintes sur le sable du temps. Bon, Jean, le révélateur bien-aimé, est Jean. Il y a plusieurs Jean ici dans la Bible. Mais ce Jean, celui dont nous parlons ce matin, un apôtre du Seigneur Jésus-Christ, un missionnaire envoyé par Dieu. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui est envoyé. J'ai souvent été étonné que les gens disent aujourd'hui, « Oh, il n'y a eu que 12 apôtres, vous voyez, seulement 12. » Vous avez déjà entendu ça. Eh bien, le mot en soi signifie « quelqu'un qui est envoyé ». Paul n'était pas un apôtre, selon les 12. Mais l'avez-vous déjà remarqué? Ils avaient choisi Matthias, je crois, ou Matthias, pour remplacer Judas. Et c'est ce que l'homme a fait. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Mais Dieu a choisi Paul pour le remplacer, voyez-vous? Et regardez ce que Paul a fait. Vous voyez, ça montre la différence entre le choix de l'homme et le choix de Dieu. Et ça me fait avoir beaucoup de grâce dans mon cœur à l'égard de certaines choses et des erreurs. Et ainsi de suite. Il y a quelques instants, j'ai écouté à la radio le très célèbre docteur Dehan, un merveilleux enseignant, oh, un frère charmant. Je l'aime de tout mon cœur, Dieu le sait, et de voir combien de grands hommes peuvent se tromper. Je me suis dit, frère, dès que j'ai vu l'erreur qu'il était en train de faire, je me suis dit, oh Dieu, il est possible que je fasse les mêmes choses, alors ne tiens pas compte des miennes. Le docteur Dehan disait, le baptême ne s'est fait qu'une seule fois dans la Bible. Je viens d'écouter cela alors que j'étais en chemin pour venir ici à l'église ce matin. Il disait, le baptême du Saint-Esprit a baptisé chacun des apôtres, les a immergés dans la chambre. C'est pour représenter cela que nous nous faisons baptiser d'eau. C'est la seule fois qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. C'est arrivé une seule fois dans la Bible. Je me suis dit, oh, docteur Dehan, eh bien, environ 10 jours plus tard, Philippe est allé prêcher aux Samaritains. Il les a baptisés au nom du Seigneur Jésus. Seulement, le Saint-Esprit n'était pas encore venu sur eux. Pierre est allé là-bas, leur imposer les mains Elles ont reçu le Saint-Esprit. Environ 2 mois ou 3 mois plus tard, Pierre est monté sur le toit et il a eu une vision. Il est allé donc chez Corneille. Ils étaient tous là-bas, d'un même accord, et ils priaient. Et comme Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme il l'avait fait au commencement. Or, ces gens-là n'avaient même pas encore été baptisés d'eau. Il a dit, « Peut-on refuser l'eau à ceux-ci qui, sans être baptisés, ont reçu le Saint-Esprit comme nous au commencement ?» Alors, comment ce petit groupe de gens là-bas représentait ? Oh, non, non. Quelques années plus tard, une vingtaine d'années plus tard, Paul a dû traverser les contrées supérieures d'Éphèse. Et il a rencontré quelques disciples. Il leur a dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru ?» Ils ont dit, « Nous ne savons pas s'il y a un Saint-Esprit. » Il a dit, « Avez-vous été baptisé ? De quel baptême avez-vous été baptisé ?» Ils ont dit, « Du baptême de Jean. » Il a dit, « Mais Jean a baptisé du baptême de repentance, disant qu'il fallait croire en celui qui allait venir, le Seigneur Jésus. » Sur ces paroles, ils se sont fait rebaptiser dans l'eau au nom du Seigneur Jésus. Et donc, il leur a imposé les mains et le Saint-Esprit est venu sur eux, voyez-vous, de la même manière qu'il est venu au commencement. Oh oui, le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau, continue d'exister et ça continuera jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais quelle erreur, vous voyez, quelle erreur! Pour un grand érudit si intelligent, cela montre que, peu importe combien vous êtes intelligent, combien vous connaissez de choses, vous êtes un humain et vous ferez des erreurs. Aussi sûr que 2 et 2 font 4, la bataille appartient au Seigneur. C'est vrai, j'ai vu des choses, même dans des visions, les choses que le Seigneur m'a montrées. Puis j'ai fait demi-tour et j'ai fait exactement l'inverse. Vous imaginez? Alors que Dieu me l'a montré, j'ai vécu cela à Lisbonne. J'ai dit, Seigneur, retire simplement ta main de sur moi. Je ne suis même pas digne d'être ton serviteur. De voir qu'il m'avait dit quelque chose et que j'avais complètement oublié cela et je suis allé de l'avant. C'est arrivé. Je me suis dit, oh là là, et là, pourquoi ne m'en suis-je pas souvenu? Voyez, c'était bien là, dans ma poche. Je l'avais noté sur un bout de papier. Or, je me suis avancé là et j'ai fait l'inverse. Vous voyez, là, ça montre combien, à quel point, combien je suis bon. Voyez-vous, pas, oh, le pire de tous, ce serait moi. En effet, si Dieu vous a dit de faire quelque chose et que vous faites demi-tour et faites l'inverse, c'est terrible, voyez? Alors, voyez-vous, l'homme, peu importe qui il est, il n'est rien d'autre qu'un être humain. Il fera des erreurs. Alors, supportons-nous les uns les autres et faisons de notre mieux. C'est tout ce que nous pouvons faire. Très bien. Dans Jean maintenant, le verset 1. Est-ce que tout le monde a ouvert sa Bible? Au commencement. Oh, dis donc, ça c'est bon, n'est-ce pas? Comme début. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Écoutez, elle était au commencement avec Dieu. Dites, prenons plus bas le verset 14. J'ai enseigné là-dessus tant de fois et j'y ai pensé. Écoutez, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père. Écoutez, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, au commencement. Maintenant, prenons quelque chose de vraiment. Ici, je vois quelque chose. Et le Saint-Esprit doit avoir fait qu'il en soit ainsi, vous voyez. Je vois une chose merveilleuse ici. Au commencement était la parole. Eh bien, mentalement parlant, on ne peut pas remonter plus loin qu'au commencement. Au commencement. Avant qu'il y ait un monde, avant qu'il y ait une étoile, avant qu'il y ait un soleil, une lune, quoi que ce soit d'autre, avant qu'il y ait la moindre création, ça, c'est au commencement. Pas vrai? Eh bien, le plus loin où nous pouvons remonter, c'est au commencement. Et au commencement, Dieu existait. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Dans ce cas, la parole, c'était Jésus-Christ. Pas vrai? Oh là là! Alors, qui était? Au commencement était Jésus-Christ. Alors, selon les idées de nos catholiques sur la filiation éternelle, cela ne se pourrait pas, car s'il était le Fils de Dieu, il faut bien qu'il ait eu un commencement dans le temps. Il fallait qu'il soit né d'eux pour être un fils. Pas vrai? s'il était le Fils de Dieu. Oh là, nous allons plonger dans la bonne vieille Écriture. Comme j'aime l'Écriture. C'est simplement, on se sent bien quand on entre là-dedans. Vous savez, ne l'aimez-vous pas? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole elle-même était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, et nous l'avons contemplée, lui, dans la gloire du Père. Vous voyez, nous avons contemplé la parole qui était au commencement, faite chair ici sur terre. Eh bien, comme c'est merveilleux de penser que Dieu a été fait chair pour ôter le péché. Eh bien, si nous pouvions voir les superstitions du monde où les gens adorent et veulent devenir de bonnes personnes. Bon, certaines de leurs dénominations là-bas, de leur secte, pensent que si un homme devient vraiment bon, il devient un Dieu. Et il est un Dieu à ce moment-là. Et il l'adore en tant que Dieu. Et aussi, une autre raison pour laquelle ils adorent cela. C'est difficile de l'enseigner à un auditoire mixte comme celui-ci. C'est parce que le germe de vie vient du mal, voyez-vous. Et ils pensent que la vie se trouve là-dedans. La vie éternelle, la vie perpétuelle, elle vient du mal et se transmet de l'un à l'autre. Nous avons toujours été ici. Nous l'avons toujours été. C'est le même esprit qui passe continuellement d'une personne à l'autre, vous voyez. C'est pourquoi ils adorent l'homme. Parce que c'est de lui que vient le germe de vie. Bon, mais ici, il nous est dit qu'avant qu'il y ait un homme, avant, au commencement, était la parole. Et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Et la parole a été faite chair. Eh bien, le plus loin où l'esprit humain peut aller, ça, c'est le plus loin où nous pouvons remonter maintenant, au commencement. Pas vrai? Au commencement était la parole. Mais là, c'est le plus loin où nous pouvons aller par la théologie. C'est le plus loin où nous pouvons aller par notre pensée. Mais la révélation nous amène plus loin que ça. Pas vrai? Bon, si vous enseignez quelque chose d'un point de vue théologique, vous direz, au commencement était la parole. C'était Dieu. Et la parole était Dieu. C'est vrai. Et cette même parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Vous voyez? Et par la suite, Dieu a été fait chair. C'est sans contredit, c'est vrai. Dieu a été fait chair. Nous croyons cela. Mais là, avant que ceci devienne la parole. Une parole, qu'est-ce que c'est? Une parole, c'est la manifestation d'une pensée. C'est l'expression d'une pensée. Pas vrai? Avant que vous disiez quoi que ce soit, vous formulez votre pensée dans votre subconscient, avant de la prononcer. Pas vrai? Donc, au commencement était la parole. Ça, c'est le plus loin où nous pouvons remonter, par ceci, par la théologie. Mais avant que la parole soit, elle était une pensée. Puis cette pensée a été manifestée. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, c'est comme cela qu'il l'a dit. Premièrement, il a pensé, puis il a prononcé la parole. Et la parole a été manifestée. Oh! Comme Dieu est infaillible. Remarquez, chaque pensée, une fois qu'elle est prononcée, quand Jésus, ce n'est pas étonnant, quand il est descendu de la colline ce soir-là et a cherché quelque chose à manger sur cet arbre, il n'y avait pas de nourriture sur cet arbre. Il a dit que personne ne mange de ton fruit. Puis il a poursuivi sa route et le lendemain, à son retour, l'arbre avait séché. La pensée de Dieu, cette pensée au commencement, c'était une pensée avant d'être une parole qui a exprimé Jésus-Christ. Et c'est la même personne qui exprimait de nouveau cette parole. Voyez? Et chaque parole de la Bible est la pensée de Dieu sous forme de semence qui, si elle est reçue dans l'être humain, est prononcée par la même pensée qui a matérialisé la Bible. Accomplit la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, combien l'Église pourrait être puissante! La Bible dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Un homme est tel que sont les pensées dans son cœur. » Donc, vos pensées, si elles sont exprimées, comme quand Dieu a dit que le monde soit, avant que cela puisse être une parole, il fallait que ce soit une pensée. Donc, dans le processus de la création, Dieu a d'abord créé le monde par sa pensée, puis il a l'a prononcé. Elle a pensé, exprimé, s'est matérialisé. Vous voyez ce que je veux dire ? Maintenant, c'est ce même esprit qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, qui a dit que les arbres soient et les arbres furent. Si donc cette même pensée qui était en Christ est en vous, à combien plus forte raison pourrait-elle dire qu'il n'y ait pas de cancer et ça disparaîtrait, que les yeux des aveugles s'ouvrent et il en serait ainsi. Voyez, c'est votre pensée. Jésus a dit « en vérité ». Vous avez dit, là, c'était Jésus. Mais attendez un instant. Il a dit « ayez foi en Dieu ». Car en vérité, je vous le dis, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, déracine-toi et jette-toi dans la mer, et si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous dites arrivera, ce que vous aurez dit vous sera accordé. Pas vrai ? Vous le recevrez, pas moi, vous le recevrez. Quelle puissance a été donnée à l'Église ? Ça, eh bien, vous pouvez l'exprimer par une conception mentale. Mais si ça devient une véritable révélation de Dieu, que vous le voyez avant que cela se produise et que vous l'exprimez sous forme de parole, cette parole s'ancre et se matérialise. Une pensée exprimée. Oh là là, comment Dieu a-t-il pu ? Vous voyez cela ? Votre cœur et votre pensée sont tellement remplis de l'Esprit de Dieu que vos pensées deviennent ses pensées. Amen. Voilà, c'est ça. Une fois que votre pensée, votre conduite et votre guide deviennent un lieu directement ou une inspiration qui vient directement du Saint-Esprit, qui fait mouvoir votre être mortel. Oh là là ! Quelle sorte de gens devrions-nous être ? Si le Saint-Esprit même vous a tant incarné ou rempli de puissance, que vous n'utilisez pas vos propres pensées, vous n'utilisez pas votre propre esprit, vous n'utilisez pas vos propres opinions, mais que le Saint-Esprit vous a tant façonné que vos pensées et votre être, c'est l'Esprit de Dieu qui s'exprime à travers vous. Quelle sorte d'Église serions-nous donc ? Quelle sorte de gens serait-ce ? Ce matin, si ce Branham Tabernacle, ce matin, était tant rempli de la présence de Dieu, eh bien, que vous n'utilisiez même pas votre propre pensée, vous n'utilisiez même pas vos propres idées, vous n'aviez même pas votre propre parole finale, mais que vous n'étiez conduit que par l'Esprit. Et ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Alors, une fois que le facteur humain disparaît et que l'Esprit de Dieu comble ce vide, là où vous vous êtes vidé de tout, amen. C'est à ce moment-là que l'Église, qui est dans sa puissance de la résurrection du Seigneur Jésus, marchera dans ses pas, dans sa puissance, dans ses pensées, dans son être, dans son action. Vous voyez ce que je veux dire ? À ce moment-là, vos pensées deviendront des paroles, et ces paroles se matérialiseront. Ça, c'est quand l'Église sera dans sa puissance. Je crois que c'est en route que lorsque l'Église sera tellement enveloppée en Christ, le Saint-Esprit, que l'homme se sera tant détaché de lui-même qu'il ne se verra plus. Il n'aura pas d'autre que de servir Dieu. Et leurs pensées suivent leur cours. Ils refusent les choses du monde. Ils agissent seulement par l'Esprit. Vivent par l'Esprit. Agissent par l'Esprit. Marchent par l'Esprit. Accomplissant ainsi la loi de Christ. Alors, l'amour de Christ dans le cœur humain, agissant par le Saint-Esprit, cette glorieuse et merveilleuse Église avancera avec puissance et divinité, parce que la divinité sera révélée dans les êtres humains par le Saint-Esprit qui accomplira la pensée de leur esprit. Nos pensées fonctionnent différemment. Bien des fois, nous nous approchons de quelqu'un et nous disons « Bonjour frère, comment allez-vous » et ça ne vient pas vraiment du fond de votre cœur. Bien des fois, nous disons « Je suis ceci et cela ». Je ferai cela. Ça ne vient pas vraiment du fond de votre cœur. Voyez, ça ne vient pas vraiment du fond de mon cœur. Mais lorsque vous devenez tellement mort aux choses du monde, que Christ passe en premier, que Christ est tout, alors vous êtes entièrement constitué de l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Il a le plein contrôle. C'est là que vos pensées seront épurées. Vos pensées seront pures. votre cœur, votre cœur. Beaucoup de gens disent, eh bien, la religion vient du cœur. Il n'y a pas de faculté mentale dans ce petit être qu'on appelle le cœur. Vous ne pouvez pas réfléchir avec votre cœur. La Bible dit, un homme est tel que sont les pensées dans son cœur. Vous ne pouvez pas réfléchir avec votre cœur. Vous ne le pouvez pas, parce qu'il n'y a rien de mental là-dedans. Avec quoi réfléchir? Jésus ne parlait pas de l'être physique, il parlait de l'être surnaturel. Nous sommes des êtres trains, âme, corps, esprit. Nous savons ce qu'est cette chair, nous en sommes conscients. La voici, nous savons ce qu'est l'esprit, il contrôle la chair. Mais l'âme, qu'est-ce que c'est? L'âme, c'est la nature de l'esprit. Quand un homme se convertit, cela ne signifie pas que « voici un bon enseignement profond ». J'espère que vous saisissez cela. Il y a quelque temps, j'en parlais à certains jeunes hommes l'autre jour. Un homme s'est assis sur mon perron et il a dit « Frère Branham, autrefois, j'étais un homme d'affaires et j'ai passé des années à rechercher le salut. » Il m'a raconté tout ce qu'il avait enduré. Il a dit que sa femme était allée quelque part et avait reçu l'esprit. Et elle n'arrivait pas, il n'arrivait pas à recevoir l'esprit. J'ai dit « Qu'est-ce que vous voulez dire, frère ?» Il m'a dit d'où il venait. Il s'est exprimé. Il a dit, j'ai dit, vous recherchez le salut? Il a dit, oui, je recherche le salut. Et j'ai dit, le Seigneur veut. Il a dit, frère Branham, je crois que j'ai franchi la ligne au-delà de laquelle on ne peut pas être sauvé. J'ai dit, oh, ça, je ne sais pas. Il a dit, écoutez, j'ai assisté aux réunions de Billy Graham, un grand prédicateur bien connu. Et c'est un merveilleux homme de Dieu qui fait un grand travail pour Dieu. Il a dit, je suis allé à ces réunions. Et il a dit, tous ceux qui veulent être sauvés, levez les mains. Et il a dit, j'ai levé la main, puis je suis allé dans une pièce. Il a dit, et là-bas, on m'a dit qu'il me fallait accepter Jésus. Et il a dit, je me suis agenouillé et j'ai prié. Puis il m'a dit, maintenant, croyez-vous en Jésus-Christ? J'ai dit, oui, et je dis, je l'accepte comme mon sauveur personnel. Il a dit, maintenant, vous êtes sauvé. Il a dit, rien ne m'est arrivé. Il a dit, quelques années ont passé. Puis j'ai rencontré les méthodistes libres qui m'ont dit qu'il fallait que j'éprouve suffisamment de joie pour pousser des cris. Il a dit, ils ont prié pour moi et tout, jusqu'à ce que j'éprouve suffisamment de joie pour pousser des cris. Il a dit, ils ont dit, maintenant vous l'avez, vous avez reçu la sanctification. Il a dit, je suis parti. Et il a dit, je cherchais partout où je pouvais. Il a dit, je ne l'avais toujours pas. Il a dit, j'ai assisté aux réunions de frère Roberts, Oral Roberts. Il a dit, ils sont allés dans une pièce et ils m'ont dit qu'il fallait que je reçoive le Saint-Esprit et qu'il fallait que je parle en langue. Sinon, je ne l'avais pas. Il a dit, je suis allé dans cette pièce et ils se sont mis, ont prié pour moi et m'ont dit de parler au Seigneur. Et il a dit, j'ai parlé en langue. Il a dit, frère Branham, je ne l'ai toujours pas. Il a dit, je ne sais pas quoi faire. J'ai dit, eh bien mon frère. Il a dit, je suis allé à Shreveport, à la voie de la guérison. Et on m'a dit là-bas que vous étiez un prophète, de venir ici et que vous pourriez me révéler. Quand l'Esprit viendrait sur vous, quel est mon problème? J'ai dit, frère, on n'a pas besoin d'être prophète pour faire cela. La parole de Dieu règle cette chose. J'ai dit, ça n'a pas besoin de prophétie. J'ai dit, mon frère, ce qu'il y a, c'est que vous êtes simplement confus. J'ai dit, je veux vous demander quelque chose. Avez-vous toujours aimé le Seigneur Jésus? Il a dit, eh bien, je faisais partie de l'église presbytérienne. Mais a-t-il dit, j'y allais, sans plus. J'ai dit, eh bien, je voudrais vous demander ceci. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous est arrivé pour que vous changiez d'avis tout d'un coup? Il a dit, eh bien, ma femme, elle est allée chez les pentecôtistes. Et a-t-il dit, elle a reçu l'esprit. Et donc, elle est revenue. Et a-t-il dit, elle était heureuse. Et il a dit, j'ai dit, qu'en avez-vous pensé? Avez-vous critiqué cela? Il a dit, non. Il a dit, je me suis simplement dit, eh bien, je verrai combien de temps tout ça durera. Et il a dit, cela a continué. Il a dit, elle semblait l'avoir reçu. Et il a dit, un jour, j'entrais dans le bâtiment, après avoir fait une vente dans la cour. J'ai mis la main dans ma poche, et quelqu'un m'avait donné un petit tract. Et il a dit, je me suis assis dans le bureau, et je me suis mis à lire ce tract. Il a dit, un sentiment des plus terribles m'a envahi. Un sentiment qu'il fallait que je me mette en règle avec Dieu. Il a dit, c'est depuis ce temps-là que je recherche cela. J'ai dit, je veux vous demander quelque chose. Depuis que ce sentiment vous a envahi, vous n'avez jamais pu vous en débarrasser? Il a dit, non monsieur, je n'ai pas pu le faire. J'ai dit, eh bien, c'est à ce moment-là que vous avez reçu Christ. J'ai dit, ça ne veut pas dire qu'il faille lever la main. Ça c'est très bien. Parler en langue, c'est très bien. Et j'ai dit, pousser des cris, c'est très bien. mais ce sont les attributs de Christ après qu'il est entré en vous. J'ai dit, recevoir Christ, c'est recevoir la personne, Jésus-Christ. Le recevoir, lui, c'est la vie. J'ai dit, pousser des cris, parler en langue et toutes les démonstrations. Et je dis, ce sont des attributs qui accompagnent ceci. Mais premièrement, il faut recevoir Christ. Il a dit, alors, frère Branham, pendant tout ce temps, j'étais sauvé? J'ai dit, certainement. Écoutez, et je dis, l'aimez-vous? Il a dit, de tout mon cœur. J'ai dit, à un moment donné, vous ne l'aimiez pas. Il a dit, c'est exact. Et maintenant, vous l'aimez? Il a dit, eh bien, c'est la vérité. Eh bien, vous l'aviez en vous pendant tout ce temps. Et il s'est mis à sautiller sur le perron, à pleurer et à me tenir dans ses bras. Et il a dit, oh Dieu, j'ai été un chrétien pendant toutes ces années. Vous voyez, ce qu'il y a, c'est qu'il n'avait pas été correctement enseigné au départ. Alléluia. Quoi? Vous ne pourriez pas faire d'un cochon un agneau, même s'il le fallait. C'est un cochon au départ. Il s'occupe de ses propres affaires. Elle dit à l'agneau de s'occuper de ses propres affaires. Le seul moyen de faire croire à ce cochon que c'est mal d'être dans la porcherie, c'est de mettre en lui un esprit d'agneau. Si jamais il reçoit l'âme d'un agneau en lui, ou un agneau n'a pas d'âme, mais si jamais il reçoit en lui un esprit d'agneau, la nature même de la chose, c'est pour cela que vous ne pouvez pas faire convertir un cochon. Vous ne pouvez pas convertir un agneau parce qu'il n'a pas d'âme. Ce qu'il est, dans son esprit, il aura cette même nature pour toujours. Voyez? Mais un être humain peut être changé d'un cochon en un agneau parce qu'il a une âme qui a été créée à l'image de Dieu. Amen. Eh bien, ses pensées ont changé. Quelque chose le fait pour lui. Alléluia. Un homme est tel que sont les pensées dans son cœur. Voyez? Christ, le Créateur, est venu en lui sous une forme silencieuse et a créé. Son esprit à lui a dépouillé cet homme de sa nature, de son amour pour la danse, le monde et tous ses mauvais comportements. Et dès ce moment, il a abandonné toutes ces choses et s'est mis à avoir faim de Dieu. Et Dieu était en lui pendant tout ce temps. C'était Dieu au départ. Voyez? C'est ça. Amen. Un homme est tel que ses pensées. Il faut que ce soit une pensée avant de pouvoir être une parole. Et une parole, une fois exprimée, se matérialise. Je crois dans mon cœur que je suis chrétien parce que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Même si je ne pleure pas, si je ne bouge pas, si je ne fais rien, dans mon cœur, premièrement, je crois que Christ est mort pour moi, à ma place. Amen. J'accepte cela en tant que chrétien. Je crois cela en tant que chrétien. Alors, c'est dans mon cœur. Puis, je l'exprime en parole. Je suis un chrétien. Alléluia. Et je me mets à marcher comme un chrétien, à parler comme un chrétien, à vivre comme un chrétien, à être comme un chrétien. Et à mes fruits, le monde reconnaît que je suis un chrétien. Alléluia. Dis donc, je n'avais pas l'intention de parler aussi fort. Mais là voilà la parole de Dieu. Jésus a dit, voilà, c'est ça. Oh, dites-le-moi quand il faudra que j'arrête. Mais, eh bien, Jésus a dit ceci. Écoutez, au commencement, remarquez, vous voyez, un homme est tel que sont les pensées de son cœur. Maintenant, écoutez ce que Jésus a dit. Nous n'aurons pas... Oh, si seulement vous pouviez voyager et voir les religions. Et celui-ci doit faire ceci, celui-là doit faire cela, et l'autre doit faire cela. Mais, frère, délaissons ce vieux tabernacle une fois. Redressons-nous pour toujours. Nous sommes chrétiens par la foi. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes chrétiens. Voyez, Dieu, dans son infinie miséricorde, nous a appelés à nous réconcilier avec lui par son Fils, Jésus-Christ. Ça règle la question. Non pas ce que nous avons fait, ce que lui, il a fait. Il a changé mon âme, m'a fait quitter les choses du monde pour les choses de Dieu. M'a fait quitter les courses de chevaux, les jeux d'argent, l'adultère, le mensonge et le vol. Il a changé mon âme, changé mes pensées. Alors, mes pensées deviennent tellement réelles qu'elles deviennent des paroles sur mes lèvres. Et elles se matérialisent. Et maintenant, je suis un chrétien. Cela a fait de moi une personne différente. C'est ce que cela a fait de vous. Voyez? Alors, si vous êtes indécis et que vous ne croyez pas cela, oui, dites-vous, eh bien, je me demande. Vous feriez mieux de faire attention. Vous dites, eh bien, frère, j'ai passé des moments merveilleux. Peu m'importe combien vous avez passé des moments merveilleux. Vous dites, eh bien, j'ai poussé des cris. C'est bien, mais ça ne veut toujours pas dire que c'est cela. Vous dites, j'ai parlé en langue. C'est bien, mais ça ne veut toujours pas dire que c'est cela. Vous dites, J'ai guéri les malades. Ça ne veut toujours pas dire que c'est cela. Jésus a dit, plusieurs viendront à moi en ce jour-là et diront, n'ai-je pas chassé des démons par ton nom et fait beaucoup de miracles? Il dira, retirez-vous de moi, vous, ouvriers d'iniquité. Je ne vous connais même pas. Oui, monsieur. Paul a dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand j'aurai la foi jusqu'à transporter des montagnes, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Il faut qu'il y ait eu un changement. Voilà, c'est ça, un changement de cœur. Non pas cette chose physique, mais le cœur de votre âme. Quelque chose qui s'ancre en vous, au point que vos pensées s'engourdissent par rapport à ces choses. Vous ne voyez plus ces choses. Vous ne voyez que le Seigneur Jésus. Vous voyez la justice, la sainteté, la pureté, l'amour et la grâce. Ça, c'est quand vous avez été changé. Qu'est-ce qu'un converti ? Convertir signifie changer quelque chose. Et vos pensées, vos habitudes, votre être ont été changés. Vous êtes passé d'un pécheur à un chrétien. Premièrement, vous le savez dans votre cœur, puis vous l'exprimez avec vos lèvres. Et par la suite, cela se matérialise. Et c'est ce que vous êtes. Maintenant, si vous pensez que vous le pensez, quelle expression ? Mais si vous vous imaginez que vous le pensez et que vous l'exprimez, mais que cela ne se matérialise pas, alors vous êtes sur la mauvaise voie. Vous saisissez ? Peut-être que je ferais mieux de laisser parler un peu plus lentement. Écoutez, si vous vous imaginez être un chrétien et que vous le dites avec vos lèvres, mais que vous vous rendez compte que vous ne l'êtes pas, vous feriez mieux d'avoir un changement de pensée, un changement de cœur. Voyez ? Parce que cela n'en rend pas témoignage. Ça n'en porte pas le fruit. Mais le fruit de l'esprit, c'est la douceur, la paix, la longanimité, la bonté, la miséricorde, la foi. Si la moindre petite chose arrive et que vous vous emportez, vous feriez mieux de faire attention. Il y a quelque chose qui ne s'est pas produit. Vous exprimez quelque chose ici qui n'est pas ici. Jésus a dit aux pharisiens, « Hypocrite, comment pouvez-vous dire de bonnes choses ?» C'est ça qui faisait d'eux des hypocrites. Ils pensaient une chose dans leur cœur et leurs lèvres exprimaient autre chose. C'est ça un hypocrite. C'est ça qui fait de quelqu'un un hypocrite. Il a dit, « Comment le pouvez-vous alors que vous êtes des hypocrites ?» Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous ne dites pas ce que vous pensez vraiment. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous devez dire ce que vous pensez. Si vous ne le pensez pas, ne le dites pas. Voyez ? Prononcez vos paroles, qu'elles viennent du fond de votre cœur. Comme Jésus, lorsqu'il parlait de cet arbre, « Personne ne mangera plus de ton fruit. » Eh bien, dans tout son cœur, il n'y avait pas le moindre doute que cet arbre sécherait. Pourquoi ? Son cœur sortait du pur, c'était l'Esprit de Dieu en lui qui le rendait ainsi, pour donner une leçon à ses disciples. Vous voyez ce que je veux dire ? Très bien. Alors, que ce soit pur, que vos pensées soient pures, et vos expressions pures, menez une vie pure et soyez purs. Eh bien, c'est de votre cœur que viennent les mauvaises pensées, l'adultère et toutes ces choses. Si ces choses sortent de votre cœur, alors c'est ce qu'il y a dans votre cœur. Mais si de votre cœur sortent la justice, la paix, l'amour, la joie, oh là là, alors ça vient de cette source-ci qui est constituée de cela. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est constitué de l'Esprit de Dieu, ici, qui s'est exprimé à travers l'œuvre. Et là, ce que vous direz s'accomplira. Je vais vous donner un petit aperçu de quelque chose, à quel point la parole de Dieu est infaillible. Faites attention à ce que vous dites. Quand Dieu dit quelque chose, cette chose-là ne peut pas faire autrement qu'arriver. Peu m'importe combien ça semble différent. J'ai vu des choses, comme dans ce récent itinéraire. Mes amis, j'ai vu Dieu faire quelque chose que je croyais impossible. Mais c'est arrivé. Après que j'ai vu l'erreur que j'avais faite au sujet de quelque chose qui était une erreur, j'étais censé avoir fait quelque chose. Dieu m'avait dit d'aller le faire. J'avais noté cela et je l'avais mis ici, dans ma poche. Et au lieu de le faire, j'ai oublié. Et voilà que j'ai fait autre chose. Et la grâce de Dieu a renversé la situation et a quand même accompli cela. Amen. Ça doit forcément arriver. Eh bien, je crois qu'ici, dans Jean, je le lisais l'autre jour, quelque part ici, la même chose sur, voyons un peu, c'est le verset 12, oui, voilà, regardez, Jean 12, verset 37. Écoutez, nous commençons au verset 36. « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de la lumière. » Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Maintenant, écoutez, voilà, maintenant regardez bien ceci. Je l'ai noté ici, j'ai lu cela à Bombay. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, voyez, ils ne croyaient pas en lui. Peu importe ce qu'il avait fait, il avait accompli des miracles. Regardez cette nation, regardez ces gens, regardez les miracles et les prodiges qui se sont produits ici même, dans ce tabernacle. Regardez les choses qui ont été dites et qu'il a été prouvé qu'elles venaient de Dieu. Regardez, voyez, cela a été prouvé par Dieu. Et pourtant, les gens de la ville s'en moquent et tournent cela en dérision. Ils disent que c'est de la télépathie mentale ou quelque chose de ce genre. Ils ne comprennent pas. Écoutez ceci. Tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplît la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. « Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit ceci, une fois que Dieu a dit quelque chose, ça ne peut pas faire autrement qu'arriver. Car c'est premièrement sa pensée, et ensuite sa parole est exprimée. Alors il n'y a rien, peu importe ce qui vient ou ce qui part, ça ne peut pas faire autrement qu'arriver. Oh, pouvez-vous voir l'infaillibilité de la parole? Oh là là! Il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Écoutez, Dieu, à travers son prophète Ésaïe, un homme qui avait des hauts et des bas comme nous, qui faisait des erreurs comme nous, mais Dieu avait amené cet homme à s'abandonner à lui, du fait qu'il était prophète, à tel point que ses paroles, les pensées de Dieu, alléluia, les pensées de Dieu se sont exprimées par les lèvres mortelles d'Ésaïe, un homme qui a fait des péchés et tout, comme moi, qui a eu des hauts et des bas, comme moi et comme vous, mais un vase abandonné à Dieu, qui a exprimé la pensée de Dieu en parole. Alors, quoi que les gens aient pu faire, les paroles d'Ésaïe devaient s'accomplir, puisque c'était la pensée de Dieu, exprimée à travers Ésaïe. Voilà, c'est ça, alléluia, oh Dieu, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Oh là là, quand le monde n'existera plus, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Pourquoi ? Il exprimait en parole la pensée du Dieu Tout-Puissant. Et quand, par la foi, nous acceptons cette parole, ça ne peut pas faire autrement que de se matérialiser. Oh, combien ça remplit mon cœur d'enthousiasme, de penser « Ta parole, Seigneur, est confirmée au ciel pour toujours ». Ce que sont les pensées de Dieu, il les exprime en parole. Et voici la parole vivante de Dieu. Jésus a dit, « Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Alléluia! Non pas celui qui va à l'église, non pas celui qui met son nom dans le registre, non pas celui qui professe, non pas celui qui pousse des cris, non pas celui qui guérit les malades, non pas celui qui ouvre les yeux aveugles, non pas celui qui parle en langue, non pas celui qui prophétise, mais celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne viendra jamais en jugement, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Oh frère, que cette foi s'ancre une fois dans ce cœur, au point que ces paroles seront vraies devant Dieu. Alors les cieux et la terre seront ébranlés et ils disparaîtront. Mais cette parole éternelle, cette pensée qui est dans votre cœur, qui est exprimée par Dieu, ne peut pas plus faillir que les paroles d'Ésaïe ne pouvaient faillir. Il y en a eu des milliers qui ont vu des miracles s'accomplir, mais qui n'ont pas pu croire malgré tout, parce qu'Ésaïe l'avait exprimé et avait dit « Ils ne croiront pas cela ». La parole de Dieu est éternelle. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu, là-bas, au commencement, quand il a vu le monde, il nous a vus, vous et moi, ici, ce matin. Il a vu mon bébé assis là-bas derrière, Il a vu chaque personne affamée en Inde. Il a vu chaque prédicateur derrière la chair. Il a vu marcher tous les hypocrites. Il a vu tout cela. La pensée infinie de Dieu l'a vu d'avance. Et il a dit, « Bon, pour racheter cette race déchue, j'enverrai mon Fils, Jésus-Christ. » Voilà, c'était la parole. Au commencement, avant que ça devienne une parole, c'était une pensée. Avant, c'était une pensée. Elle était exprimée par une parole. Et la parole s'est matérialisée et a habité parmi nous. Alléluia! 10 millions d'années, peut-être, avant même que le monde soit formé. La pensée de Dieu a vu son corps, qui avait sa demeure dans la chair, pour ôter l'aiguillon de la mort. Oh, combien la parole de Dieu est éternelle! Oh, les temps changeront, les années viendront et passeront. Des temps incommensurables passeront, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Voilà, c'est ça. Oh Seigneur, laisse-moi serrer ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Laisse-moi la méditer jour et nuit. Laisse-moi écrire tes commandements sur le montant de mon lit. Et qu'il soit toujours devant mes yeux. Et Seigneur, que je ne pêche pas dans mon cœur contre toi, mais laisse-moi marcher dans. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Romains 8, 1. Alléluia! Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Amen. Les pensées de Dieu, exprimées dans le cœur humain, continuent à avancer, alors que le Dieu immortel conduit ses sujets de lieu en lieu. Et la Bible dit, les pas du juste sont dirigés par l'Éternel. Oh là là, à quel point le monde est-il nouveau? Quelle est la durée de l'éternité? Quand nous pensons que la parole de Dieu a été exprimée par les lèvres d'un être mortel, qui était pourtant tellement soumis à la parole de Dieu. Il a dit, Ésaïe en a parlé. Il ne pouvait pas croire, parce qu'Ésaïe l'avait dit par inspiration. Ce Jésus-Christ, l'Emmanuel, ici sur terre, avec tous les passages des Écritures, partout, lorsqu'il marchait sur la terre, il savait qu'il ressusciterait le troisième jour. Pourquoi? Parce que David avait dit, par inspiration, « Je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts, et je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. » Il a dit, « Aussi mon cœur est dans la joie, et mon corps a été se réjouit. » Quand Jésus, sous une seule parole, l'onction, parle, a parlé par Dieu, à travers un homme qui avait ses hauts et ses bas, David. David a dit, « Je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts, et je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. » Jésus a dit, « Détruisez ce temple, et je le relèverai en 3 jours. » Alléluia! Il croyait la parole immortelle de Dieu. Oui, monsieur, peu importe. Il n'a pas dit cela. Il a dit, « Eh bien, il n'a jamais. Il est mort un vendredi après-midi et est ressuscité. Qu'en est-il des 3 jours ?» Jésus savait qu'après 72 heures, la mort s'installe, la corruption s'installe dans le corps. Il savait qu'à un moment donné, au cours de ces 3 jours, qu'à un moment donné, dans cet intervalle, Dieu le ressusciterait. Parce que David, par inspiration, avait dit qu'il le ressusciterait. Alléluia! Un seul passage de l'Écriture dans la Bible. Il s'est avancé en héros vers la mort, sachant que Dieu tiendrait sa parole. Ce que Dieu avait pensé premièrement et qu'il avait ensuite exprimé. Alléluia! Alors, aujourd'hui, je crois que ce Seigneur Jésus qui est monté là-haut, au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Il vient chercher les rachetés qui sont nés de nouveau, lavés par le sang. De la même manière qu'il est parti, il reviendra. C'est exprimé dans la Bible que des rois s'élèvent, qu'il y ait des différends, que le tonnerre arrête la terre, la famine, les bombes atomiques et quoi que ce soit d'autre. Mais Jésus, le Fils de Dieu, reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Car c'est la parole inspirée de Dieu qui l'a dit. Je crois vraiment que Dieu guérira le corps des malades. Parce qu'il a dit, il était blessé pour mes transgressions, brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Que les docteurs, la théologie ou quoi que ce soit d'autre s'élèvent. Que les séminaires s'élèvent et s'effondrent. La parole de Dieu avancera quand même. Oui, monsieur, Dieu l'a dit. Et avant que Dieu puisse le dire, il fallait d'abord que ce soit une pensée. Et Dieu a pensé à toute la chose. D'un bout à l'autre, il l'a exprimé en parole. Et cela ne pouvait faire autrement que de se matérialiser. Il n'y a pas longtemps, je lisais, où j'ai vu un endroit où une jeune fille plaçait les cadrans de montre. Elle est plongée dans le radium. Elle s'est trouvée qu'elle a léché cela, a mis le pinceau sur sa langue. Ça l'a tué. Des années et des années plus tard, ils ont déterré son crâne Ils ont mis leur stéthoscope dans leurs oreilles et tout, et ont inséré l'autre bout dans ce crâne. Et on pouvait entendre ce radium faire. Il n'a pas de fin. Ça reste actif encore, et encore, et encore, et encore. Le radium n'a pas de fin. C'est continuellement actif. Après des années et des années, ce crâne n'était plus qu'un os blond. Mais le radium continuait d'être actif là-dedans, parce qu'elle l'avait mis dans sa bouche. Juste une partie comme ça. Et ce radium continue d'être actif. Alors, à combien plus forte raison le Dieu éternel, par son être divin et par la puissance de sa parole parlée, quand il prononce sa parole, les temps vont changer, les gens vont changer, les nations vont changer, les mondes vont changer. Mais cette parole avance continuellement au siècle des siècles, parce qu'elle était la pensée de Dieu avant qu'elle soit exprimée. Alléluia! Je l'aime de tout mon cœur. Et après avoir vu des centaines de religions de ce monde, je dis ce matin, Christ est le roc où je me tiens. Tout le reste est sable mouvant. Tout le reste est sable mouvant. Prions. Père Céleste, oh, comme je suis heureux ce matin de savoir que par la grâce rédemptrice, ton Fils nous a rachetés d'une vie de péché. Oh, quand je vois mon propre corps dépérir, prendre de l'âge, grisonner et se rider, je sais, par contre, qu'au-delà de cette ombre-ci, là-bas se trouve un corps qui n'a pas été fait de main d'homme. Là-bas se trouve ce corps immortel qui attend, et un jour, quand la vie aura quitté ce corps, il se réveillera de nouveau dans sa présence là-bas pour être avec lui à travers les âges sans fin. Ô Dieu, ce matin, fais que chaque homme et chaque femme qui a cette espérance en lui se purifie des choses du monde et ses futilités qui les tireraient vers le bas et les rendraient misérables. Fais qu'ils soient des chrétiens heureux à ton service. Accorde ces choses, Père, par le nom de Jésus ton Fils. Amen. Je pense que j'ai un peu dépassé l'heure pour vous, mais mon cœur a été emporté par sa parole, par son être. Je suis venu sans préparation. Je ne savais pas que j'allais parler. Il s'est trouvé que j'ai simplement dit ces paroles. Et je n'ai touché qu'à un seul verset de l'Écriture. Mais peut-être que dans quelques dimanches, nous continuerons à partir de là, voir ce qu'était la parole. L'aimez-vous ? Écoutez, mon ami chrétien, s'il y a quoi que ce soit dans votre cœur, contre quelqu'un, allez vers eux maintenant et réconciliez-vous. Oubliez tout ce qui est du passé. Et si vous avez une vie en dents de scie, souvenez-vous, quelque chose est entré dans votre cœur. Quelque chose agit dans vos pensées. Peu importe qui est votre ennemi, aimez-le, aimez-le. Peu importe ce qui s'est passé, laissez tomber. Après tout, vous êtes dans un champ où il y a de l'ivraie. Ça, nous en sommes conscients. Mais nous devons tous croître ensemble. Nous devons grandir ensemble. Car un bon puits ne peut pas donner une mauvaise eau. Et un mauvais puits ne peut pas donner une bonne eau. Un arbre ne peut pas produire en même temps de mauvais fruits et de bons fruits. Alors, soit nous récurons tout le puits, soit nous salissons tout le puits. C'est l'un ou l'autre, vous voyez? Car c'est sale au départ. Alors, récurons les puits ce matin et disons, « Seigneur, réponds ton esprit et conduis-moi. Ô Dieu, conduis-moi. » De voir que nous sommes allés dans une église catholique là-bas, à Rome, et on voulait me faire visiter ce qu'ils appellent l'église des ossements. C'est que depuis des centaines d'années, ils prennent leurs moines et les enfouissent dans le sol, là-bas dans l'église. Ils les enterrent. Presque chaque église est un cimetière. Et ils ensevelissent ces gens là-dedans. Et après qu'ils ont passé un certain temps dans le sol, on les déterre. Une fois que leur chair s'est décomposée et est devenue poussière, on les déterre. Et ils ont fait une pièce beaucoup, beaucoup plus grande que ceci, juste avec des ossements humains, la manière dont ils les ont empilés les uns sur les autres. Et au coin où on marche comme ça, il y a des crânes et tout. Les supports de lampes sont faits de petits bouts de doigts et d'os. Les lampes sont fabriquées avec des os et tout. Ce n'est rien d'autre que... Il y a là les tombes d'autres personnes qui se décomposent. Au bout, il y a une inscription très marquante. Elle dit, à un moment donné, nous étions comme vous. Et à un moment donné, vous serez comme nous. C'est vrai. Et seuls ceux qui aiment Dieu auront la vie immortelle. Et c'est vrai. Et j'ai remarqué que des gens passaient. La religion catholique est remplie de superstitions et tout. Les crânes de ces moines avaient été frottés au point qu'ils avaient blanchi. Certains d'entre eux s'étaient érodés profondément comme ça. Mais les gens les frottent pour essayer de tirer des crânes de ces moines, des bénédictions et des choses de ce genre. Cela montre simplement qu'ils sont des êtres humains. Ils ont un cœur. Ils ont faim de quelque chose. frères, la religion de Jésus-Christ ne consiste pas à frotter les os des morts. Elle consiste à croire au Seigneur Jésus-Christ et à accepter la vie immortelle. Oh là là! Mais quand on y pense, c'est vrai qu'à un moment donné, ces hommes étaient comme nous ici ce matin. Ils ont eu leur occasion et nous avons la nôtre. Qu'allez-vous faire de cela? Oh, faites que chaque parcelle de cela soit consacrée au Seigneur Jésus. N'ayez pas de temps pour les choses du monde. Rejetez tout fardeau qui vous enveloppe facilement. Courons avec persévérance dans cette carrière qui nous est ouverte. Aimons le Seigneur Jésus. Soyez bons les uns vers les autres. Soyez bons envers vos ennemis. Aimez tout le monde. Peu importe ce qu'ils ont fait, aimez-les quand même. Et si vous ne pouvez pas le faire, frères, sœurs, si jamais il y a eu un moment où vous avez besoin d'un à l'hôtel, c'est à ce moment-là, quand vous pourrez revenir, créer. Et l'autre jour, je me suis rendu compte qu'un esprit égoïste est venu sur moi, qui disait, celui-ci est dans l'erreur. Je devrais lui en parler. C'est mal ça. C'est à Dieu de le lui dire. Ce n'est pas mon affaire. Mon affaire, c'est de prêcher l'évangile, d'aimer tout le monde. Et d'aller de l'avant pour aimer mes ennemis, comme Jésus-Christ m'a aimé quand j'étais son ennemi. C'est vrai, quand je n'étais pas agréable, il m'a aimé, m'a porté dans son sein. Et quiconque n'est pas agréable, que je les aime de la même manière. Que l'Esprit qui était en Christ soit en nous. Amen. Je l'aime. Je l'aime. Oh là là.
Unchanging hand, hold to God's unchanging hand, build your hopes on things eternal, hold to God's unchanging hand, when my journey is completed, if to God true, fair and bright my home in glory, my enraptured soul shall view, so let's hold to God's unchanging hand, hold to God's unchanging hand.
Est-ce là la prière de chaque homme et femme, garçon, fille, ici aujourd'hui? Que Dieu vous bénisse. Puisse-t-il vous garder ainsi, humble d'esprit, doux dans votre âme, pardonnant les autres comme Christ vous pardonne en Dieu. Soyez gentils, généreux, accueillants. Y a-t-il une autre activité ou quelque chose d'autre dans l'église, Fresneville? Écoutez, mon cher ami chrétien, alors que vous repartez d'ici ce matin, nous n'avons pas grand-chose ici à vous offrir en termes de biens matériels. Vous qui êtes des nouveaux venus parmi nous, nous avons un petit tabernacle. Nous sommes des gens pauvres, vraiment pauvres au possible. Nous sommes désolés de ne pas pouvoir avoir ici quelque chose d'un peu mieux pour offrir un meilleur accueil aux gens. Mais mon frère, ma sœur, à l'intérieur de ces petits murs-ci, dont la structure ne paye pas de mine, vous verrez que nous accueillons chaleureusement le Seigneur Jésus-Christ. Venez adorer avec nous. Si vous n'avez pas d'endroit où aller, nous avons ici un pasteur charmant. Il y a ici de braves hommes qui font partie du conseil des diacres, et ainsi de suite, de braves chrétiens. Venez et prenez place, et vous serez toujours les bienvenus ici, au Branham Tabernacle. Nous ne pouvons faire qu'une seule chose, nous aimons le Seigneur Jésus de tout notre cœur. Nous croyons que la parole est là, que cette Bible est la parole de Dieu. Nous n'avons aucun manuel, si ce n'est cette Bible. Nous n'avons ici aucune loi pour ceci, cela, de... Eh bien, notre loi, c'est l'amour. Notre credo, c'est Christ. Et nous vous aimons de tout notre cœur. Revenez et soyez avec nous, si tel est votre désir. Et nous espérons vous voir un jour dans un meilleur pays où nous... Mais maintenant, mettons-nous en marche vers Sion, si vous le voulez bien, alors que vous vous levez. Teddy, voudrais-tu venir ici un instant, fiston, rapidement? Nous... Ce soir, c'est le service de communion. Oh, je suis heureux d'être ici pour cela. Écoutez, Jésus a dit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Cette parole est immortelle, pas vrai? Très bien. Alors, tous ensemble maintenant, chantons « Nous marchons vers Sion ». Très bien. Maintenant, retournez-vous et serrez-vous la main. Maintenant, chantons ce refrain encore une fois et chantons ensuite notre cantique que nous avons l'habitude de chanter en nous séparant. Nous allons chanter « Nous marchons vers Sion » encore une fois. Présentez-vous au nouveau venu. Dites-lui que vous êtes content de le voir ici. En effet, il fait chaud dans l'église et nous n'allons pas traîner longtemps dans l'église avant de partir. Le service est maintenant terminé. Nous allons terminer dans quelques minutes. Maintenant, tournons-nous et disons « Je suis Monsieur Jones et je suis heureux de vous rencontrer ». Revenez au tabernacle, soyez amicaux, souriez avec tout le monde. Très bien maintenant, présentez-vous au nouveau venu et dites-lui de revenir. Maintenant, terminons la réunion en chantant le cantique immortel du Branham Tabernacle. Combien se souviennent du bon vieux cantique que nous avons l'habitude de chanter en nous séparant? Revêt-toi du nom de Jésus. Ô toi, enfant de tristesse, il va te procurer la joie. Prends-le partout où tu vas. Oh là là, tous ensemble. Courbons maintenant la tête pour prier. Pasteur, viens terminer la réunion. Veux-tu, mon frère ?